Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous. Très bon courage pour ce lundi. Mais c'est lundi, mais on est ensemble jusqu'à 9h. Soyez les bienvenus dans Apolline Matin et très bon début de semaine donc. Question sur le durcissement de la répression des rave parties, les interdictions du protoxyde d'azote, sauf pour les professionnels, et la lutte contre les stupéfiants renforcée. Voilà les promesses du gouvernement qui prédit un choc d'autorité et d'efficacité sur les questions de sécurité. Discussion à partir d'aujourd'hui au Sénat. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Jean-Didier Berger, sera mon invité à 7h40 sur RMC. Mais je vous attends, venez donc témoigner sur RMC. Est-ce que vous vivez cette insécurité dans votre quotidien? Est-ce que vous trouvez que l'État est dépassé? Je vous attends au 3216 et puis vos messages sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. À 8h30, retour sur un week-end de guerre et de menaces. Frappe aux abords d'une centrale nucléaire dans l'ouest des Émirats Arabes Unis. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique dit, je cite, sa profonde préoccupation, et Donald Trump menace une nouvelle fois de rayer l'Iran de la carte. Le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel, est mon invité dans le face-à-face. Rendez-vous à 8h30. Et puis cette semaine, devenez sélectionneur des Bleus. Participez à notre jeu, la liste des 26. 26 cadeaux pour profiter de la Coupe du Monde. Vidéoprojecteur, écran, barre de son, maillot des Bleus, baby-foot. N'en jetez plus, il y en a des cadeaux. Et ils se gagnent jusqu'au 29 mai sur RMC. On va jouer ensemble d'ici 9h. Restez bien attentifs. Il est donc 6h59. Dans un instant, c'est le journal de 7h. Et d'abord, la météo, Géraldine, est-ce que ça va s'améliorer?
Oui, ça va s'améliorer. Alors, pas aujourd'hui, mais ça va s'améliorer. Donc, très nettement, à partir de mercredi pour la fin de la semaine, il va faire très beau, il va faire chaud même. Mais pour l'instant, pour aujourd'hui, on va avoir un temps souvent gris, avec des averses. Averses qui seront orageuses cet après-midi, hein, surtout dans l'Est. Vous y échapperez sur l'Aquitaine, sur l'Occitanie. Hein, vous aurez quand même un peu de soleil. Les températures, pour l'instant, ne bougent pas. On est toujours bien sous les normales de saison, hein, 3 degrés en moyenne sous les normales cet après-midi, 15 à 19 degrés sur la plupart des régions. Il fera 19 à 23 de la vallée du Rhône jusqu'à la Méditerranée.
Excellent réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Accusé de violence sexuelle par une trentaine de femmes, Patrick Bruel sort du silence. Il répond surtout à la plainte déposée pour viol par Flavie Flamand, des faits contestés par le chanteur qui veut continuer de faire son métier. Suspendre le permis de conduire aux consommateurs de drogue, même sans flagrant délit, c'est la mesure choc du projet de loi Riposte, censé répondre aux problématiques du quotidien étudié aujourd'hui au Sénat. Et le final de la Ligue 1 qui envoie Lille en Ligue des Champions. Rennes est éjecté du top 5 par l'OM, qualifié pour la Ligue Europa. Auxerre se sauve, Nice jouera les barrages.
Patrick Bruel répond aux accusations de viol et de violence sexuelle.
Il est mis en cause par une trentaine de femmes en France et en Belgique. Le chanteur, visé par au moins 4 plaintes regroupées par le parquet de Nanterre, sans compter celle de l'animatrice ex-mannequin Flavie Flamand, déposée pour des faits de viol remontant au début des années 90, lorsqu'elle était mineure. Et c'est d'abord en réaction à cette accusation que Patrick Bruel s'est exprimé, Rachel Sadodine, sur ses réseaux sociaux.
Je ne peux plus laisser se propager des rumeurs absurdes et écœurantes. Je ne comprends pas pourquoi Flavie Flamand raconte une histoire sordide. Cette histoire est fausse. Patrick Bruel nie avoir violé l'animatrice lorsqu'elle avait 16 ans, évoque une brève histoire, ni violente ni contrainte, avant d'ajouter « Je comprends que notre différence d'âge puisse faire réagir aujourd'hui ». Un mea culpa plus qu'insuffisant pour Élise Selimovic Lartillier, militante au sein du collectif féministe Nous Toutes.
Déjà à l'époque, c'est pas quelque chose de normal de sortir avec une mineure.
Elle regrette aussi que le chanteur n'évoque que brièvement la trentaine d'autres plaignantes et qu'il refuse de mettre sa carrière en pause, le temps de laisser la justice faire son travail.
C'est une insulte en réalité aux victimes, qu'il puisse continuer son activité. Nous, on appelle au boycott de Patrick Bruel. Partout où il sera en concert, nous, on va se mobiliser.
Le collectif Nous Toutes soutient une pétition pour l'annulation de la tournée de Patrick Bruel, signée notamment par l'actrice Anna Mouglalis, la comédienne Corinne Maziro ou encore la chanteuse Pomme.
Et on fera le point juste après votre journal, Thibault, sur l'enquête et sur les plaintes. Cécile Olivier, grand reporter police-justice pour le magazine Elle, sera dans ce studio. C'est elle qui a révélé et recueilli le témoignage de plusieurs jeunes femmes qui se plaignent d'avoir été abusées par Patrick Bruel.
À la une également, ce procès qui nous rappelle l'affaire des viols de Mazan devant la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence. Aujourd'hui, celui d'un homme, directeur de banque, soupçonné d'avoir, sous la menace, frappé, violé et livré son ex-compagne à des centaines d'inconnus pendant 7 longues années. On en reparle dans le journal de 7h30. Autre procès à Marseille, celui des membres présumés du clan Yoda, qui s'est livré une guerre contre la DZ Mafia dans sa quête de points de deal. À Marseille, parmi les 20 prévenus jugés pour trafic de drogue et blanchiment d'argent, Pierre Bazin, il y a le chef présumé de ce clan, Félix Bingui.
Oui, selon les enquêteurs, c'est sous les ordres du chat, comme il est surnommé, que les 19 autres prévenus, hommes et femmes, auraient fait tourner l'un des plus gros points de deal marseillais pendant plusieurs années. Un lieu de vente au cœur à ce moment-là d'une guerre de territoire extrêmement meurtrière entre Yoda et la DZ Mafia. Mais Félix Bingui, lui, a toujours nié être chef et membre de Yoda, selon Maître Oaillon, son avocat.
Il y a tellement peu d'éléments dans ce dossier. L'accusation soutiendra sans doute qu'il y a des éléments qui sont pas normaux sur son train de vie, etc., etc. Nous, ce que nous soutenons, c'est que les sonorisations, il est impossible d'en tirer la conclusion que celui-ci serait même impliqué dans le trafic. C'est ça l'intérêt de ce dossier, c'est l'immense contraste entre la figure de M. Bingui, telle qu'elle est présentée par la presse, et la réalité de ce dossier.
D'après les éléments que nous avons pu consulter, l'enquête repose sur de nombreuses retranscriptions d'écoute, mais aussi des auditions durant lesquelles certains prévenus ont livré des informations sur le clan. Des éléments qui seront au cœur des débats dès ce matin, puisque selon nos informations, certains avocats entendent contester la régularité de cette enquête.
La lutte contre le narco-banditisme et la DZ Mafia au cœur d'un déplacement de Gérald Darmanin en Algérie ce lundi signe que les relations entre Paris et Alger se réchauffent, occasion aussi pour le ministre de la Justice d'aborder la situation du journaliste Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison en Algérie. Un rendez-vous à suivre sur RMC 7h40. Jean-Didier Berger, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, plus d'un mois après la présentation du projet de loi Riposte étudié au Sénat ce lundi. Laurent Nunez avait promis un choc d'autorité. Le texte vise à répondre aux violences du quotidien, bâillé, layé, large, pour offrir un arsenal de sanctions contre diverses infractions, tirs de mortier, rodéo urbain, protoxyde d'azote, sans oublier le trafic de drogue et sa consommation. Les consommateurs pourraient, en cas de condamnation, se voir suspendre leur permis de conduire pour une durée de 3 ans, même sans avoir été contrôlé positif au volant. Pas sûr que la mesure suffise à convaincre ces consommateurs rencontrés par Lou Garnier, près de Paris.
5 à 10 joints par jour, c'est ce que fume Alex depuis près de 5 ans. Cet électricien a déjà payé plusieurs amendes pour usage de stupéfiants. Ce n'est pas cette nouvelle mesure qui pourrait le dissuader de consommer.
Je trouve ça stupide, non. Dans tous les cas, j'ai besoin du permis, je vais conduire. Ça ne va jamais me faire arrêter de consommer.
Comme lui, Christophe fume quotidiennement des joints. Depuis plusieurs années, il reconnaît que l'usage des stupéfiants au volant est très dangereux, mais cette mesure est injuste pour lui.
Je pense que c'est beaucoup trop abusif. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui n'est pas au volant devrait être puni, pas au point de supprimer le permis. Je trouve que c'est vraiment plus fragiliser les gens précaires que vraiment obtenir de résultats.
Pour lutter contre la consommation de drogue, il faut davantage de prévention, selon lui. Jean-Baptiste Yoska est avocat, spécialiste du code de la route. Il se dit étonné par une telle mesure.
Ça revient à suspendre un permis de conduire d'une personne qui ne conduirait peut-être pas du tout, ou en tout cas qui ferait attention à ce que sa conduite ne soit pas entachée de stupéfiants.
Pour la sécurité routière, il appelle à renforcer les contrôles des automobilistes plus que des piétons.
Et je vous attends au 32-16. Dites-nous si vous estimez effectivement qu'il faut un choc d'autorité ou si l'État est dépassé. Est-ce que cette insécurité au quotidien, elle existe autour de vous? Dites-nous, racontez-nous. On attend vos témoignages au 32-16.
Le secteur du tourisme ciblé par une importante cyberattaque. Après Pierre et Vacances et Bel en Bras en début de week-end, c'est Gîtes de France qui annonçait hier avoir subi le vol de plusieurs centaines de milliers de données. Près de 390 000 clients pourraient être concernés. Le pirate qui a revendiqué les attaques dit avoir dérobé des données de réservation s'étalant sur plus de 30 ans. Et le problème, Pierre Borges, c'est que cela concerne aussi les réservations à venir.
Oui, le fondateur de French Bridge, le site qui a révélé ces piratages, a pu accéder à un échantillon de ces données.
C'est des données très sensibles. Vous avez des noms, prénoms, adresses, numéro de téléphone, date de séjour, durée des vacances, parfois même le nombre d'enfants ou même des informations liées à des mineurs.
Autant d'informations qui peuvent permettre à des escrocs de se faire passer pour le responsable de votre hôtel ou encore de votre loueur de voiture, prévient David Soria, expert en cybersécurité.
Ce qu'ils vont essayer de faire, ça va être essayer d'avoir vos codes de carte bleue, même pour des très petits montants. Est-ce que vous voulez payer votre taxe de séjour en avance? On peut peut vous surclasser pour à peine 10 euros, est-ce que ça vous intéresse, etc. La somme sera vraisemblablement ridicule. Vous avez donné vos codes de carte bleue, et ça se revend très cher. Ils peuvent siphonner votre compte, faire plein de choses, etc.
Il appelle donc à la plus grande vigilance dans les prochains mois si vous avez réservé un séjour chez l'une de ces entreprises de voyage. Les experts craignent aussi de possibles cambriolages avec le vol de l'adresse des clients et les dates de leur futur séjour.
7h07 sur RMC, la Ligue 1 a livré son verdict.
Battu de 1 sur la pelouse du Paris FC, le PSG a célébré son titre de champion de France. Lens et Lille se qualifient directement pour la Ligue des Champions. Lyon passera par le tour préliminaire, vainqueur de Rennes 3-1. L'OM sauve un peu les meubles avec une 5e place synonyme de Ligue Europa, loin, loin, très loin des attentes de Mehdi Benassia, directeur du football marseillais.
Bien sûr, c'est du gâchis. Si on m'avait fait signer en début d'année pour finir troisième, la vérité, c'est que j'aurais dit non. Nous, on allait chercher au minimum la deuxième place, on était ambitieux. T'as une équipe qui est compétitive, t'es capable de faire des bonnes choses, donc tu te dois d'aller tout le temps chercher le plus haut possible. Aujourd'hui, tu finis cinquième, un peu tiré par les cheveux, machin. Ce que tu peux pas accepter, c'est une équipe qui ne se présente pas. La moindre des choses que tu dois attendre à l'OM, c'est de donner toujours le maximum, et malheureusement cette année on l'a pas fait. Voilà, c'est du gâchis. Mais j'ai envie de te dire que dans ton malheur, t'accroches quand même une Coupe d'Europe, et c'est important, avec pourquoi pas l'ambition d'aller la chercher.
Et ce sera sans lui, Mehdi Benassia va quitter le club en fin de classement. Auxerre se sauve in extremis. Nice se retrouve donc en situation de barragiste. Ce sera face à Saint-Etienne la semaine prochaine. Notez que le match entre Toulouse et Nantes a été interrompu après l'envahissement du terrain par les supporters nantais afin de protester contre la relégation.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h09 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Elle avait déjà témoigné, mais de manière anonyme. L'animatrice Flavie Flamand affirme avoir été droguée, puis violée par le chanteur Patrick Bruel quand elle avait 16 ans. Lui a réagi hier soir pour la première fois sur ses réseaux sociaux. Il affirme qu'il n'y a eu ni drogue, ni viol. Il dénonce des allégations et des rumeurs. Bonjour Cécile Olivier.
Bonjour Apolline.
Vous êtes grand reporter, police, justice, pour le magazine Elle. Vous avez révélé plusieurs témoignages de ces jeunes femmes qui disent avoir été abusées par Patrick Bruel. Vous avez recueilli leurs témoignages. Vous faites le point avec nous dans un instant. Ça se savait dans le milieu, voilà aussi ce que vous dites. On vous écoute. Et vous aussi, n'hésitez pas, vous nous appelez pour réagir au 32-16. Il est 7h09.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. C'est au moins 30 femmes désormais qui dénoncent des comportements, des agressions sexuelles et même des viols entre 91 et 2019. Mais lui conteste vigoureusement les faits. Patrick Bruel, peut-il continuer à se produire normalement et où en est l'enquête? Bonjour Cécile Olivier.
Bonjour à
vous. Vous êtes grand reporter police-justice pour le magazine Elle. Vous avez enquêté sur le chanteur. Vous avez révélé le mois dernier les témoignages de plusieurs femmes qui affirment avoir été abusées par Patrick Bruel. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que le témoignage, la plainte déposée par Flavie Flamand est un tournant?
Oui, puisque ça donne une autre dimension à l'affaire, évidemment, qu'il y ait une femme aussi connue, aussi populaire que Flavie Flamand qui accuse à visage découvert, évidemment que ça donne une autre ampleur si les faits sont avérés, évidemment, puisque lui, Patrick Bruel, conteste. Il y avait déjà une autre femme, hein, assez connue, mais peut-être moins, Daniela Elsner, la patronne d'Unifrance, qui déjà avait accusé le chanteur en son nom propre, mais là, ça donne une autre ampleur, et nous, les témoins que nous avons interrogés pour Elle, nous ont appelés en disant qu'elle se sentait quelque part à l'abri, elle se sentait confortée par cette prise de parole. En fait, elles se disent, on va nous croire.
Soutenue, effectivement, par le fait que Flavie Flamand aussi soit des leurs, en quelque sorte, qu'elle se sente moins seule. Mais votre enquête, elle date d'avant ces révélations. Vous avez un certain nombre de femmes. Qu'est-ce qu'elles vous racontent? Qu'est-ce qu'elles disent?
Alors, on a 5 témoins en tout, des femmes qui parlent pour l'une d'elles de viol, une autre qui a déposé plainte pour tentative de viol, et les autres ce sont des agressions sexuelles. Ce que nous on voit se dessiner quand même, c'est que les faits se seraient passés pour l'essentiel dans un contexte professionnel, puisque on a deux de nos témoins qui travaillaient dans son label de l'époque, BMG, Bertelsmann Music Group, au début des années 2000, qui relatent donc des agressions sexuelles, dont une pour qui c'est allé assez loin. On a deux autres témoins qui étaient des jeunes femmes qui voulaient soit percer dans le milieu de la musique, soit pour l'une d'elles écrire une encyclopédie de la musique noire américaine, et à qui le chanteur avait proposé son aide, et des jeunes femmes à qui il donne des invitations chez lui et où les choses auraient dérapé. Et puis on a un cinquième témoignage, alors d'une femme au Canada, au Québec, qui est une journaliste qui relate une agression sexuelle après une interview où lors d'une tournée au Canada de Patrick Bruel. Donc on voit que ça se passe dans le milieu professionnel à des époques et des lieux très divers.
Dans la plainte de Flavie Flament s'ajoute la question de la drogue. Elle dit qu'elle pense avoir été droguée. Est-ce que c'est aussi ce que racontent d'autres femmes ?
Alors pas du tout. Nous, on n'a pas du tout eu ce contexte-là. Flavie Flament, elle parle d'un thé qu'elle a bu, où elle a eu ensuite un trou noir. Nous, personne ne nous a raconté ça. Ces femmes étaient complètement conscientes. J'ajoute que, alors ça c'est peut-être un psy qui pourrait répondre, mais on a déjà eu ça dans d'autres enquêtes. Un trou noir, ça peut aussi être provoqué par ce qu'on appelle une amnésie traumatique. C'est-à-dire que quand on est dans une situation extrêmement choquante et difficile, le cerveau peut se mettre en
sans qu'il n'y ait de substance à proprement parler, voilà. C'est ce que vous nous dites, Cécile Olivier. Je précise effectivement les réactions d'abord de Patrick Bruel, qui nie et dément les accusations de Flavie Flament. Il confirme, je cite, une brève histoire, ni violente, ni contrainte, ni sournoise, voilà ce qu'il dit, mais il dit comprendre que la différence d'âge puisse faire réagir aujourd'hui. On précise qu'elle avait 16 ans, qu'il en avait 32. Nouvelles réactions également ce matin, l'ancienne Miss France Valérie Ribeg, qui affirme avoir été témoin de comportements inappropriés de Patrick Bruel au moment de son élection au concours de Miss France en 2008. Elle dit, je cite, « Je l'ai vu, je n'ai absolument aucun doute. Est-ce que vous pensez que ces témoignages-là peuvent aussi relancer la question de la prescription ? C'est-à-dire le fait qu'il y ait un faisceau de plaintes. Est-ce que cela est de nature à rouvrir des dossiers qui, pour certains, devraient normalement être clos par la prescription et par la date ?
Oui, et d'ailleurs, on a l'une de nos témoins, Ophélie Fachefer, dont la plainte pour viol a été classée en 2023 et qui a été récupérée par le parquet de Nanterre, qui est en train d'analyser ça pour voir s'il peut rouvrir la plainte. Et de toute façon, si c'est pas le cas, Ophélie redéposera plainte avec constitution de partie civile. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, en général, les agressions sexuelles, les viols, ça se passe dans un huis clos. C'est-à-dire que par définition, il n'y a pas de témoins. Donc souvent, c'est parole contre parole. C'est pour ça que très souvent, il y a 86% hein, des plaintes pour viols et agressions sexuelles qui sont classées sans suite. Pour le plus souvent, infraction insuffisamment caractérisée, c'est-à-dire qu'il y a deux paroles et il n'y a pas souvent de preuves matérielles. Et donc, évidemment, que quand la parole d'une plaignante est soutenue par 30 autres femmes qui dénoncent des faits similaires, évidemment que les enquêteurs peuvent regarder l'affaire d'un autre œil en interrogeant d'autres personnes pour voir s'il y a des témoignages qui concordent.
Une pétition a été lancée par des organisations féministes pour demander d'annuler la célébration d'un agresseur présumé. Et Patrick Bruel dit, je cite, « Je continuerai à faire mon métier avec le même dévouement et la même passion. Il est au théâtre et une tournée commence en juin prochain avec 58 dates. » Frédéric nous a appelé d'Albi dans le Tarn. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour Apolline.
Frédéric,
bonjour.
Vous êtes infirmière libérale, je crois, et vous avez déjà vos places pour la tournée de Patrick Bruel. Vous irez pas ? Comment vous vous sentez par rapport à ça ?
Bien sûr, j'irai, à moins qu'il soit condamné entre-temps. Ce que je voulais dire d'abord, c'est que à aucun moment je dis que les plaignantes ont menti ou quoi que ce soit, ou que ce n'est pas vrai. Voilà, je dis simplement qu'il faut que la justice fasse son travail. Et qu'on n'a pas le droit de tomber comme ça à bras raccourcis sur quelqu'un, sur la base, comme l'a dit votre interlocutrice précédemment, c'est une histoire de parole contre parole. Donc tant que la justice n'est pas passée, tant que rien n'a été prouvé, je crois qu'il faut le laisser faire.
Pour vous, la question, au fond, de s'arrêter ou d'annuler des dates ne se pose pas tant qu'il n'y a pas eu de procès.
Absolument pas. On a par le passé des exemples de personnalités connues qui ont été accusées, pour qui la carrière a été complètement soit mise entre parenthèses, soit purement annulée. Je prends le cas de Harry Habitant qui a du mal à se remettre de ce qui s'est passé. C'était l'histoire d'une vengeance de quelqu'un qui a voulu faire le buzz en quelque sorte.
Alors, on ne sait pas exactement si c'était une vengeance. Ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, du point de vue de la justice, il y a eu effectivement la justice et il a été, il n'a pas été condamné. Je parle sous le contrôle d'ailleurs de Cécile Olivier. A-t-il été innocenté, blanchi? Quel est le mot exact pour Harry Habitant?
Il y a eu un non-lieu insuffisamment
un non-lieu.
Je voudrais dire quand même quelque chose, pardon.
Allez-y, Pauline. Frédéric vous écoute.
C'est que dans toutes les plaignantes, il n'y a pas que de la parole contre parole. Hein. Je pense notamment à notre témoin du Canada qui dénonce une agression sexuelle, qui a fait un signalement à la police de Montréal en 2017, qui en a parlé à sa hiérarchie, qui en avait même parlé à l'attaché de presse de Patrick Bruel, qui a fait un signalement à la médecine du travail et qui a même été déclaré en accident du travail, parce qu'au Canada, tout ça est très bien pris en charge. Donc, sur les 30 témoignages, il n'y a pas que parole contre parole.
Tout comme une autre qui dit que ça s'est passé dans une voiture où il y avait un chauffeur. Donc, en réalité, cette question, effectivement, du témoignage. En tout cas, Frédéric, on entend bien que pour vous, il n'est pas question de renoncer à aller écouter et soutenir, en quelque sorte, aussi, peut-être, Patrick Bruel au théâtre ou en concert. Vous irez effectivement au concert en décembre où vous avez des places. Merci en tout cas aussi d'avoir réagi au 32-16. N'hésitez pas, comme Frédéric, vous nous appelez pour nous dire si vous estimez au contraire qu'il faut qu'il annule sa tournée ou si, comme Frédéric, vous iriez le voir. Merci Cécile Olivier d'être venue sur RMC ce matin. Je rappelle que vous êtes grand reporter police-justice pour le magazine Elle. Votre enquête d'ailleurs est à retrouver sur le site du magazine. Il est 7h21. C'est l'heure de remonter le temps. Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, enfermer des humains pour les exhiber. Vous revenez sur ces zoos humains qui existaient encore au siècle dernier.
Et oui, le principal d'entre eux était au jardin d'acclimatation à Paris. Une véritable horreur qui a disparu dans les années 30.
Vous allez nous le raconter dans un instant. À 8h30 dans le face-à-face, reçoit le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel. Arnaud Demange vient pirater l'interview dans 5 minutes. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
7h22, on remonte le temps comme chaque jour sur RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité avec vous, Arthur Chevalier, le Sénat s'apprête à adopter aujourd'hui une loi très attendue. C'est une loi qui doit permettre la restitution à la Guyane des dépouilles de 14 Amérindiens. Des Amérindiens, Arthur, que la France avait à l'origine mis dans un zoo humain.
Oui, ces corps sont conservés au Musée d'Histoire Naturelle de Paris depuis 1897. Jusqu'ici, l'État a refusé de les rendre car c'était considéré comme du patrimoine, un peu comme des œuvres, si vous préférez. Des arguments évidemment pas très convaincants. Ce qu'on se disait, c'est que ces restes humains, en fait ce sont des os, pouvaient avoir un pseudo-intérêt scientifique. Bon, tout ça c'est terminé, puisque sauf énorme surprise, le Sénat devrait enfin permettre la restitution de ces corps à la Guyane, d'où venaient à l'origine ces Amérindiens.
Qu'on comprenne bien, ces Amérindiens, la France les avait mis dans un zoo humain.
Eh bien, vous avez très bien compris, Apolline, hein, car oui, il y a eu des zoos humains. À l'origine, le premier a ouvert en Allemagne au 19e siècle, et ça arrive chez nous en 1877. Alors, pour comprendre ce délire, il faut un peu de contexte historique. À l'époque, la France est une puissance coloniale, elle occupe plein de pays, dont beaucoup en Afrique, et on s'est mis à faire venir des populations majoritairement issues de pays colonisés. Pourquoi faire? Eh bien, pour les exhiber aux Français de métropole. Les provenaient à venir, c'était des Nubiens et des Esquimaux.
Concrètement, ça consistait en quoi?
Eh bien, exactement comme avec des animaux dans un zoo, sauf que c'était avec des êtres humains. On les mettait derrière des barrières toute la journée et le public venait les voir. Alors, on avait mis une sorte de décor un peu exotique pour que tout ça fasse un peu authentique. Le plus important de ces zoos était au jardin d'acclimatation à l'ouest de Paris, à côté du Bois de Boulogne. D'ailleurs, ce jardin existe encore aujourd'hui. Au total, on a exhibé entre 30 à 40 000 personnes en France, un spectacle sordide.
Ça a marché, enfin, je veux dire, les gens venaient.
Ah, ça a cartonné. Ça a très très bien fonctionné. Certains dimanches, jusqu'à 60 000 personnes venaient voir ces individus traités comme des bêtes au jardin d'acclimatation. Et il n'y en avait pas qu'en France, hein, des zoos humains, Apolline, puisqu'on en trouvait aussi en Allemagne, on l'a dit, mais aussi aux États-Unis ou encore en Angleterre.
J'imagine qu'ils étaient très maltraités.
Évidemment, très maltraités. Ils passaient leur journée dehors, donc ils attrapaient des maladies pulmonaires. C'était littéralement monstrueux. Il y a eu des milliers de morts. C'est justement ce qui est arrivé aux 14 Amérindiens qui sont au cœur de la loi débattue aujourd'hui au Sénat. Ils sont arrivés à Paris en 1892 dans le but d'être exhibés. Eh bien, ils n'ont pas résisté à l'hiver, ils sont morts dès la première année.
Quand est-ce que ces zoos humains vont enfin fermer ?
Alors, à la fin des années 30, il y a eu quelques restrictions, mais pas grand-chose. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne les a pas fermés pour des raisons morales, mais tout simplement parce qu'il y avait moins de public, notamment à cause du cinéma, qui devenait un loisir très populaire. Les gens ne voyaient plus vraiment l'intérêt d'aller voir ces populations soi-disant exotiques. Donc c'est en fait la fin du business qui a provoqué la fin des zoos humains.
Merci Arthur Chevalier. 7h25, Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et bonjour. Salut Arnaud. À 8h30 tout à l'heure, je reçois le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel.
Et oui, il y a Gilou.
Gilou avec son petit accordéon.
C'est tellement Kepel,
c'est vraiment lui.
Oui, parce qu'on le reçoit souvent, mais on connaît mal l'homme, Gilles Kepel. Qui est le mâle, Gilles Kepel? L'enfant qui a grandi. Alors, je suis allé voir sur Wikipédia. Quand il était jeune, il était communiste. Après, il est parti en Syrie et il a voulu apprendre l'arabe. Ah bon? Il a fait ça? Mais on lui a fait une double palpation à la sécurité à cet âge, parce que un jeune qui fait ça aujourd'hui, c'est pas Apolline de Malherbe qui l'interroge à sa descente d'avion. Hein. Gilles Kepel, en 2026, il aurait fini à poil dans une cellule de 3 mètres carrés avec deux pinces croco sur les tétons reliées à un générateur et deux agents des services secrets qui disent « Alors, qu'est-ce que tu foutais en Syrie ?» Ben je prépare une thèse. J'ai envie d'être thésard. Ouais, ben moi j'ai des envies de taser.
Oh non.
Et alors, après la Syrie, il est parti au Caire, où il a étudié sur les mouvements islamistes, notamment les frères musulmans. Mais enfin, on peut lui faire une troisième palpation à la sécurité.
Enfin,
au service secret, ils ont dû le voir souvent. Alors moi, Gilou, on se retrouve? Non, c'est une erreur. Je veux juste chroniquer le monde arabe, moi. Ouais, mais on n'est pas chez Radio Nova, ici. Allez, Riton, remets-lui un coup de triphasé qu'on rigole. Ah! Aïe! Mes mamelons, au secours.
Non, bref. Les mamelons de Kepel.
Bah, c'est relou. Mais non, mais c'est des pinces croco.
Oui, bien sûr.
Alors, Gilles Kepel viendra analyser la politique étrangère, notamment la visite de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui est aujourd'hui en Algérie, pour discuter de coopération judiciaire et surtout du cas de Christophe Glaize, journaliste sportif, qui est toujours emprisonné sur place. On ne devrait jamais emprisonner un journaliste, voilà, c'est dit, surtout un journaliste sportif. Au pire, si on veut vraiment le faire souffrir, on l'envoie commenter un match du FC Metz à domicile.
Voilà.
Et encore, c'est sévère, je trouve. Là, les Algériens, ils nous ont rendu Boualem Sansal, nous on leur envoie Darmanin.
Les calculs sont pas bons, Kevin.
Ils avaient gardé Christophe Glaize et Boualem Sansal. Par contre, Ségolène Royal, ils nous l'ont rendu. Ça, ils n'ont pas gardé.
Ça, c'est, ouais.
Gilles Kepel sera demain au Théâtre Marigny pour un débat avec Bruno Tertrais. Je ferai la première partie, sinon on va tous s'embêter. Non, mais qui va aller voir ça? Il y a des gens vraiment qui se disent « Tiens, on parle pas assez de l'Iran à la télé. Si j'allais payer 35 balles et prendre une nounou pour aller voir Gilles Kepel et Bruno Tertrais à Marigny. » Ou alors, ils vont rejouer Chevalier et Las Palès, les deux, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Non, monsieur, le détroit d'Hormuz, peut-on le rouvrir?
Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
Oui, parce que là, il est tout fermé.
Mais oui, mais il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Ça va être super. Alors, il va faire la promo tout à l'heure. Rendez-vous avec Las Palès à 8h30.
Il est 7h28. À tout de suite pour la météo journal. Il est 7h30 et il fait mauvais, Géraldine.
Oui, alors ça va s'arranger à partir de mercredi. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est du gris, des averses quasiment partout. Averses d'ailleurs qui vont tourner à l'orage cet après-midi, surtout dans l'Est. Vous y échapperez sur l'Aquitaine, l'Occitanie. Vous aurez même un peu de soleil. Les températures, pour le moment, ne bougent pas. On reste bien sous les normales de saison. Il faudra compter 15 à 19 degrés en général cet après-midi. 19 à 23 entre la vallée du Rhône et la Méditerranée.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Guitz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ferrari, Porsche, Maserati, plus de 20 voitures de luxe volées en une nuit dans un parking à Paris, 12 suspects interpellés. Un homme devant les assises de Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence, accusé d'avoir violé, torturé son ex-femme pendant 7 ans. Scène surréaliste hier soir à la Beaujoire, jet de projectiles, envahissement de terrain, bagarre et le match de Ligue 1 Nantes-Toulouse définitivement interrompu.
Un cambriolage spectaculaire en plein Paris.
Des dizaines de bolides de luxe se sont volatilisés en quelques minutes dans la nuit de samedi à dimanche. Plusieurs individus se sont introduits dans un parking du 15e arrondissement où une conciergerie de luxe stationnée. C'est Ferrari, Porsche ou encore Bentley. Et Rachel Saadonine, vous avez rencontré les témoins de la scène.
Au beau milieu de la nuit, dimanche, Fares est en bas de son immeuble, juste en face du parking. Sous ses yeux, une vingtaine de voitures de luxe qui défilent.
Il y avait des Hummer, des Porsche Cayenne, il y avait des Lamborghini.
Avec au volant...
Que des jeunes en casquette, en noir, visage découvert en plus.
De quoi éveiller ses soupçons, mais pas ceux de Nasser et Boris, deux voisins.
On a insisté à un casse, on ne le savait pas.
C'est pas vrai.
Car cette nuit-là, une quinzaine de personnes s'introduisent dans le parking. Après avoir forcé l'accès piéton, elles fracturent la porte du bureau de la conciergerie et vole les cartes grises et les clés des voitures.
Ça faisait un boucan monstre. Parce que les gars ne gênaient pas à taper de l'accélérateur. Et nous, on regardait les voitures, mais j'applaudissais un moment. Oh, bravo, super, la Ferrari. J'étais comme un gosse devant les voitures, quoi. Et les gars, ils faisaient un petit signe de la main, genre merci du compliment, puis ils continuaient à rouler tranquille.
Un spectacle qui aurait duré une heure, selon eux.
Ils sont tous sortis, puis un par un, chaque 10 minutes à peu près. Hein. Petit à petit, ils ont tout vidé.
Les policiers sont parvenus à localiser plusieurs de ces voitures volées, ils ont procédé à une douzaine d'interpellations.
7h33 sur RMC, c'est un procès hors norme qui s'ouvre à Digne-les-Bains.
Un directeur de banque va être jugé devant la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence pour proxénétisme, viol aggravé et acte de torture sur son ex-femme Laetitia. Et Julie Brault du service police-justice d'RMC, aujourd'hui, elle espère que ce procès permettra de libérer la parole d'autres victimes potentielles.
7 ans au cœur de l'enfer pendant lesquels Laetitia dit avoir subi les insultes, les coups et les viols de son compagnon et puis la prostitution forcée, livrée à des centaines d'hommes inconnus pour lui infliger des rapports sexuels extrêmes, explique son avocat maître Philippe-Henri Honegger.
C'est des hommes qui sont recrutés, ils lui faisait subir les pires sévices. Elle se sent totalement déshumanisée. Elle dit « j'en peux plus ». C'est insupportable, c'est pas possible, j'y arriverai pas.
Des actes de torture subis sous la menace constante de son compagnon.
Des menaces à sa vie, à ses enfants. On vous dit « fais ça et si tu le fais pas, je vais te tuer. Si tu le fais pas, ce soir je vais te tabasser jusqu'à ce que je t'en décroche la mâchoire. »
Épaulée par une amie, Laetitia a finalement trouvé le courage de porter plainte en 2022. Aujourd'hui, elle attend que son bourreau présumé soit jugé lors d'un procès public aux yeux de tous.
Alors qu'il a essayé de la réduire au silence, elle veut montrer que la peur, la honte doit changer de camp. Si pour une seule femme, son exemple à elle puisse aider, comme l'exemple du fait qu'on peut s'en sortir.
L'accusé, placé en détention provisoire depuis 4 ans, assure que Laetitia a toujours été consentante.
Et face à la hausse des prix des carburants, Sébastien Lecornu va dévoiler jeudi de nouvelles aides pour le mois de juin, annonce Matignon. Un site internet regroupant toutes ces aides sera mis en ligne le 27 mai prochain. L'OMS déclenche une urgence internationale face à la flambée d'Ebola en République démocratique du Congo. Près de 330 cas suspects, 88 morts et un variant jugé particulièrement meurtrier. Les autorités sanitaires redoutent une crise difficile à contenir. Il n'existe aucun vaccin ni traitement, ce qui rend la gestion de cette épidémie très compliquée, Louis Salé.
À cela s'ajoutent d'autres difficultés. Le foyer épidémique se situe dans une zone reculée au nord-est du Congo, une région frontalière de l'Ouganda connue pour son activité minière où circule beaucoup de monde. Yannick Simonin est virologue à l'Université de Montpellier.
Forcément, dans une zone rurale avec un accès aux soins plus compliqué, il y a probablement une circulation qui perdure depuis plusieurs semaines qui n'a pas été diagnostiquée. C'est aussi pour ça que la situation est assez inquiétante.
Sur place, l'aide humanitaire s'engage dans une véritable course contre la montre pour tracer et isoler les personnes infectées, explique Claire Nicolet. Elle est responsable des urgences pour Médecins Sans Frontières.
On a vraiment une grosse inquiétude parce que il y a déjà plusieurs foyers, plusieurs cas contacts qui se baladent un petit peu partout. Donc il va falloir des lieux d'isolement un peu partout pour essayer de s'assurer que justement la maladie est contenue.
Il y a peu de risques en revanche que le virus se propage en dehors du continent africain, malheureusement habitué aux épidémies d'Ebola qui ont tué plus de 15 000 personnes ces 50 dernières années.
7h36 sur RMC, un scénario totalement hors de contrôle hier à la Beaujoire.
Le match Nantes-Toulouse lors de la dernière journée de Ligue 1 a basculé dans le chaos après l'intrusion de supporters nantais sur la pelouse, des jets de projectiles, de fumigènes. La rencontre a donc été définitivement interrompue à la 22e minute. Un scénario totalement inattendu pour le dernier match de Vahid Halilhodžić sur le banc nantais, Pierre-Yves Leroux.
Et c'est lui, l'entraîneur nantais, 74 ans depuis deux jours, qui est resté face aux intrus sur le terrain. Retenu par le service de sécurité, Vahid Halilhodžić tenait à ce que le match aille à son terme.
Je suis allé vis-à-vis plusieurs messieurs cagulés. Ben, j'ai essayé stopper, mais il avait beaucoup de monde. Et plus surtout le gars de sécurité qui m'a porté. Je pouvais pas, mais je voulais aller vers eux. S'ils sont mécontents, s'ils sont frustrés, je peux comprendre parfaitement bien. Mais pas ça. Le club, il mérite pas ça.
Déjà officiellement relégué en Ligue 2 depuis 8 jours, le FC Nantes risque de débuter la prochaine saison avec une lourde sanction, comme s'en inquiétait après l'interruption du match le milieu de terrain Louis Leroux, formé au club.
Le pire, c'est que ça va nous pénaliser forcément la saison prochaine. On a vu Saint-Etienne il y a quelques années qui a commencé avec moins 6 points, donc voilà, on s'y attend aussi forcément.
La commission de discipline de la Ligue se réunira cette semaine pour statuer et dès l'annonce de l'arrêt définitif de la rencontre, Marina Ferrari, la ministre des Sports, a demandé l'identification des auteurs et des sanctions d'une grande sévérité.
Nice passera par la case barrage et affrontera Saint-Etienne les 26 et 29 mai prochains. Auxerre-Le Havre joueront en Ligue 1. Lille termine la saison 3e et jouera la Ligue des Champions. L'OL 4e passera par le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Enfin, l'OM, vainqueur de Rennes hier soir 3-1, se qualifie pour la Ligue Europa.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de Marseille-Borély, 13h55.
Le pronostic de la Dream Team, leur favori est l'As Courpluvix et leur outsider, le 14, la Maf Sommer.
C'était le journal de Clément Gouiz. 7h38, c'est le moment de jouer et de gagner, de vous inscrire pour tenter de remporter l'un des packs cadeaux Coupe du Monde. Il y a des vidéoprojecteurs, des écrans, des barçons, des maillots, des bleus, des baby-foot, n'en jetez plus. Il y a jusqu'à 26 cadeaux pour la liste des 26, évidemment. Vous devenez sélectionneur. Vous devez sélectionner un des joueurs dans la liste des 26. Ça se passera en direct tout à l'heure, mais c'est maintenant qu'on s'inscrit. Vous envoyez liste au 7-32-16. Liste au 7-32-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire et jouer ensuite avec nous. Liste au 7-32-16. Bonne chance à tous. Il est 7h38 sur RMC. On part au 32-16. Alexandre qui nous appelle de Mâcon en Saône-et-Loire. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour tout le monde.
Alexandre, comment ça va ? Vous êtes chef d'entreprise. Alors dans quel domaine d'abord ?
Alors nous, on est dans le magasin industriel.
D'accord. Et vous avez entendu ces appels, notamment de la CFDT et des syndicats, oui, à relancer les négociations des salaires, pour réaugmenter les salaires. Ils disent qu'il faut absolument jouer sur les salaires dans ce moment où c'est de plus en plus dur, avec notamment les hausses du carburant. Vous en pensez quoi, vous, Alexandre ?
Bah, ils ont à la fois raison et tort, parce que j'ai entendu qu'ils veulent rehausser les salaires par le haut, alors qu'il faudrait rehausser par le bas.
C'est-à-dire ?
En fait, quand vous voyez ce que nous prennent déjà l'État en taxes, je pense qu'il faudrait négocier là-dessus, comme les heures sup. Je pense qu'il faudrait les défiscaliser, comme a fait Sarko en 2008. Mmh. Mais aussi enlever les taxes sur les avantages en nature, comme sur les tickets restaurants puis la mutuelle.
C'est-à-dire...
La mutuelle santé, à l'époque, Macron nous a forcé, nous, employeurs, à payer la mutuelle à nos salariés. Ce qui est bien, hein, en soi. Mais derrière, eux, ils sont taxés là-dessus.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, la balle, pour vous, elle est plus dans le camp de l'État que dans le camp des patrons ?
Ah bah bien
pour
sûr,
augmenter les salaires, pour augmenter les revenus,
les salaires,
disons.
C'est tout le monde qui va se rehausser, et du coup, en fait, c'est l'État qui va avoir plus d'argent avec les taxes.
Donc il faut augmenter les revenus en baissant les taxes ?
C'est ça.
Vous seriez prêt à... Vous avez combien de salariés, d'ailleurs, Alexandre ?
8.
Vous seriez prêt éventuellement à les augmenter ou à les payer mieux, ou alors vous vous dites je peux pas, mais par contre
Ah mais moi je les paye déjà mieux, parce que je les paye déjà au-dessus du marché.
Ouais.
Je voulais payer leur mutuelle à 100%, on me l'interdit. Je peux payer que 50%.
Ok.
Donc ça, je trouve ça un peu ingrat.
Ouais.
Je paye le repas le midi, mais avec les tickets restaurants, bah ça coûte de l'argent monstre, quoi. Donc
ouais,
tout ça, en fait, ça pourrait y arrêter, quoi.
Ouais, donc c'est aussi à l'État de faire un geste. Merci beaucoup. Merci Alexandre, je crois que c'est la première fois que je vous accueille à l'antenne au 32-16. Soyez le bienvenu et revenez quand vous voulez, Alexandre, donc patron d'entreprise, 8 salariés à Mâcon. Il est 7h41 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et si vous perdiez votre permis de conduire pour cause de consommation de drogue, sans même être au volant ? Voilà l'une des mesures phares de votre projet de loi. Jean-Didier Berger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ministre auprès du ministre de l'Intérieur, en charge des questions de sécurité. Et vous voulez, je cite, restaurer la sécurité du quotidien. Vous promettez d'ailleurs un choc d'autorité. Ce texte, il est débattu aujourd'hui au Sénat. Est-ce que l'État a encore les moyens de ses ambitions, ou est-ce qu'il est dépassé par ces questions de sécurité du quotidien ? Vous nous répondez dans un instant. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à appeler nous au 3216 pour nous dire si vous êtes témoin, vous, d'une dégradation de la sécurité au quotidien. On attend vos témoignages. 7h41.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h45 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Comment mieux assurer la sécurité du quotidien? Le Sénat se penche sur la question aujourd'hui. Bonjour Jean-Didier Berger.
Bonjour à tous.
Vous êtes ministre auprès du ministre de l'Intérieur en charge des questions de sécurité et vous défendez le texte Riposte du gouvernement Riposte comme réponse immédiate aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. On parle notamment des rave parties, du protoxyde d'azote, des mortiers d'artifice, on parle de la violence dans les stades, on parle de la consommation de drogue. Votre projet de loi, il brasse très large et il veut des réponses très précises pour chacune de ces situations. Prenons-en une en particulier, la question de la consommation de drogue. Vous voulez adopter l'idée d'annuler le permis de conduire d'un consommateur de drogue, même si il est constaté qu'il consommait de la drogue, mais hors des questions de volant, que ce soit juste une des conséquences, qu'il ne puisse plus conduire. Vous assumez ?
Oui, absolument. Je pense qu'à partir du moment où on a dans notre pays une personne sur trois qui a déjà consommé du cannabis, on ne peut pas se plaindre d'avoir des meurtres en pleine rue, des mineurs qui soient tués, d'avoir des innocents qui soient tués et ne pas prendre les dispositions qui s'imposent. Donc oui, nous assumons de suspendre le permis de ceux qui consomment. Il n'y a pas de consommation festive, il n'y a pas de consommation anodine.
Ça veut dire que si vous êtes pris en flagrant délit de consommer du cannabis, on peut vous retirer votre permis de conduire.
Un tribunal peut suspendre le permis de conduire jusqu'à 3 ans de suspension. Mais je dois dire que ce n'est pas la seule mesure à l'intérieur du projet de loi Riposte que nous portons avec Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Il y a aussi l'augmentation de l'amende forfaitaire délictuelle.
Il passerait de 500 à 500 euros.
Donc c'est vraiment un cap qui est franchi. Il faut savoir que dans notre pays, depuis 10 ans, il y a eu plus de 500 000 amendes forfaitaires délictuelles qui ont été payées par les contrevenants. Et je dois dire que c'est évidemment un signal très très fort. En fait, les 10 ans de la création de l'amende forfaitaire délictuelle dans notre pays, c'est un outil qui permet de désengorger les tribunaux et de taper directement au portefeuille les contrevenants.
Mais c'est un des outils, vous comprendrez bien, qui est aussi aujourd'hui le symbole de l'impuissance de l'État. Parce que certes, vous allez augmenter cette amende forfaitaire, elle va passer de 200 à 500 euros, mais dans le même temps, ces amendes forfaitaires, c'est la Cour des comptes qui le dit, elles ne sont recouvrées qu'un taux d'à peine 20%. Ça veut dire qu'en réalité, on donne des amendes, mais elles ne sont pas payées.
Alors, ça n'est pas le cas pour l'AFD Stup, qui est payée à plus de 50%. Et je dois dire que bon, c'est bien de voir le verre à moitié vide, mais en fait, on est en train de progresser sur le sujet. Et surtout, en augmentant l'amende forfaitaire délictuelle de 200 à 500 euros, on envoie un signal très clair. C'est qu'il n'y a pas que les trafiquants, il n'y a pas que les complices des trafiquants, il y a aussi les consommateurs qui ont une responsabilité, et puis également les parents.
Non, mais sur le signal, quand vous dites on envoie un signal, non, mais sur le signal, ça j'ai bien compris qu'il y avait un signal très clair. Ma question, c'est pas le signal, c'est la réalité.
Mais la réalité,
est-ce que dans la réalité, ça a un vrai impact?
C'est exactement pour ça que je vous ai parlé des 500 000 amendes qui ont été effectivement payées sur 1 million d'amendes qui ont été mises au global. Mais ce qui compte, c'est qu'on est en train de progresser sur le sujet et qu'on ne lâche rien pour faire en sorte que la fermeté, elle soit totale. Et sur la loi narcotrafique qui a déjà permis de faire plus de 150 fermetures de commerce, plus 2500 interdictions de paraître pour les individus concernés par les trafics, on est en train de taper fort, de mettre des grands coups de pied dans la fourmilière, et c'est aussi pour ça que les choses sont en train d'évoluer.
La question est un peu la même pour les rave parties. On se souvient évidemment de cette grande rave party il y a quelques semaines. Le ministre Laurent Nunez s'était même rendu sur place, disant qu'il y aurait effectivement un durcissement de la répression. Dans les faits, semble-t-il, une partie de ces rêveurs ont quitté les lieux sans avoir été ni arrêtés ni condamnés. Vous promettez dans cette loi que les rave parties illégales seront passibles d'un durcissement de la répression, 1500 euros d'amende, mais pas de création d'un nouveau délit en commission. Est-ce que vous estimez que ça va être suffisant?
Nous, ce que nous voulons, c'est bien montrer qu'il y a une différence entre faire la fête, une fête déclarée, une fête qui assure la sécurité de nos compatriotes, et des fêtes sauvages avec des gens qui ne sont pas des anges, avec des gens qui accueillent les forces de l'ordre, parfois avec des boules de pétanque. C'est de ça dont on parle. Donc nous voulons qu'il y ait à la fois la possibilité de sanctionner les participants quand les participants sont en contravention avec la légalité, mais aussi et surtout les organisateurs, parce que on ne peut pas prendre le risque de mettre en péril des milliers, voire des dizaines de milliers de vies dans une organisation qui est nulle et non avenue, sans possibilité de secours, sans possibilité d'accès pour sauver les gens qui
seraient en difficulté. Mais encore une fois, Jean-Didier Berger, sur le fond, je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui sur le fait que ça pose un certain nombre de questions et de problèmes. La question, c'est ensuite l'efficacité de votre réponse.
C'est exactement ce que vient faire ce projet de loi Riposte, c'est de créer les délits lorsque c'est nécessaire, de mettre un durcissement et des peines de prison et des amendes forfaitaires délictuelles, et de taper là où ça fait mal avec une effectivité, avec du concret immédiatement, notamment la possibilité de saisie des matériels concernés. On parle parfois de dizaines de poids lourds. Faut bien que nos compatriotes se rendent compte de ce dont on parle. On parle d'organisations massives, d'événements qui peuvent rassembler plusieurs milliers, parfois plusieurs dizaines de milliers de personnes sur des terrains qui ne sont pas du tout adaptés pour ça.
Merci beaucoup d'être venu défendre donc ce projet de loi de Laurent Nunez. Vous, Jean-Didier Berger, vous êtes ministre donc auprès du ministre de l'Intérieur. Vous défendez ce projet Riposte du gouvernement. Et je précise d'ailleurs que Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, sera mon invité demain sur RMC et BFM TV dans le face-à-face. Merci à vous.
Merci à vous.
Il est 7h51 et c'est lundi. Le lundi, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Le SMIC, est-ce que ça freine les emplois en France? Voilà votre idée?
Tel qu'il existe en France, c'est un crime social, ce SMIC, et il faut bien évidemment l'abolir.
Supprimer le SMIC, voilà la voie de droite dans un instant. Moi, il n'y a pas de doute. 7h51, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite. Mais d'abord le bonus. Mathieu, retour sur l'Eurovision. Donc, c'était ce week-end.
Oui, avec la victoire surprise de la candidate bulgare Dara. Une star chez elle, qui offre sa première victoire à la Bulgarie avec un titre dance qui peut vous rester dans la tête comme vous agacez.
Manuel Le Chypre, gardez votre cravate, il y a encore une matinale à terminer. Un carton samedi soir à Vienne en Autriche pour la 70e édition de l'Eurovision. La Bulgarie qui séduit le jury et le public, juste devant Israël, deuxième, dans une édition marquée par le boycott de 5 pays, précisément pour protester contre la participation d'Israël. Ah, déception française en revanche. Bon, déception encore, chaque année, je dis la même phrase au lendemain de l'Eurovision. Monroe et son opéra pop n'a séduit le jury, oui, mais pas le public. La chanson Regarde ne termine qu'à la 11e place du concours. Près de 4 millions de personnes ont suivi l'Eurovision cette année, c'est beaucoup, mais nettement moins que les 5,4 millions de téléspectateurs l'an dernier.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Il est 7h54 sur RMC, RMC Story. C'est lundi, la voix de droite sur RMC avec Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Le mois prochain, le SMIC va être revalorisé. Ça a été annoncé, revalorisé de plus de 2%. Une hausse de 35 euros net par mois. Marie-Lise Léon, la numéro 1 de la CFDT, estime que si l'inflation persiste, il faudra même une nouvelle hausse. Sauf que pour vous, Louis, le SMIC, il doit être supprimé, tout simplement.
Appelez Milton Friedman, prix Nobel d'économie, affirmait que le salaire minimum avait fait plus de mal aux pauvres qu'aucune autre mesure depuis la Grande Dépression. C'est dur, mais il faut l'entendre. Et ça, c'est une vérité que la France refuse de regarder en face. Sur ce sujet, nous sommes parmi les plus mauvais élèves d'Europe.
Non, mais vous voulez vraiment supprimer le SMIC ?
Tel qu'il existe et qu'on le remplace par un crédit d'impôt sur les bas salaires. Le SMIC français aujourd'hui, qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est ? 1800 euros brut par mois, environ 2000 euros pour l'employeur. Et il monte tout seul, chaque année, indexé, comme chacun le sait, sur l'inflation et sur la croissance du pouvoir d'achat. Aucun autre pays ne fait ça, aucun. 3 millions de Français y sont coincés. Un salarié sur 6, parfois pour 10 ou pour 20 ans. La France n'a pas inventé avec son SMIC le minimum vital, elle a inventé autre chose qui s'appelle une trappe.
Et sur l'emploi, quel effet ?
Du SMIC actuel, désastreux, surtout pour les jeunes et surtout pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Alors qu'on comprenne bien, le chômage des jeunes en France, 17%, 6% en Allemagne, 3% en Suisse, 7% aux Pays-Bas. Là-bas, on peut embaucher un jeune à un prix qui correspond à ce qu'il sait faire. Il apprend, il monte, il progresse. Ici, vous l'embauchez à 1800 euros brut ou vous l'embauchez pas du tout.
Ou alors, justement, vous ne l'embauchez pas du tout. Le SMIC, c'est quand même la dignité du travailleur. C'est comme ça que c'est vu en France.
Mais Apolline, la dignité du travailleur, c'est pas un chiffre qui est inscrit dans la loi. c'est d'avoir un travail, la dignité du travailleur. Quelle dignité y a-t-il à vivre au RSA à 28 ans parce qu'aucune entreprise n'a pu se permettre de vous embaucher? Quelle dignité pour ce jeune des Mureaux de Roubaix, d'Aulnay, qui n'aura jamais son premier poste parce qu'à 19 ans, sans diplôme, il coûte trop cher au regard de ce qu'il peut produire. Le SMIC français dans sa forme actuelle est devenu un véritable crime social.
Un crime social, vous exagérez.
Mais écoutez, 5 millions de personnes aux minima sociaux, 8% de chômage, 1,5 million de jeunes ni en emploi, ni en formation. Et chaque année, on augmente le SMIC sous les applaudissements. On a fermé la porte du marché du travail et on s'étonne que personne n'y entre.
L'Allemagne paye pourtant globalement mieux que nous, avec un SMIC plus bas. Comment vous expliquez ça?
Merci de le souligner, c'est tout le paradoxe. Et personne d'ailleurs ne veut l'entendre. L'Allemagne paye mieux parce que son SMIC est plus bas. Là-bas, les salaires se fixent secteur, par accord entre syndicats et patrons, en fonction de la productivité réelle. C'est la négociation qui fait monter le salaire, pas le décret. Quand le marché parle, vous obtenez des salaires réels. Quand l'État impose, vous obtenez un salaire artificiel et tout ce qui est en dessous disparaît.
Bon, alors concrètement, si vous le supprimez, on fait comment pour pas que ça casse tout?
Alors, sans drame, sans émotion, en trois temps. Un, on gèle. Le SMIC ne suit plus l'inflation. En cinq ans, il redescend tout seul en proportion. Deux, on diversifie. Un SMIC plus bas pour les jeunes, comme aux Pays-Bas, plus bas pour les apprentis, différent selon les régions. Parce que le SMIC unique de la baie de Somme au 6e arrondissement de Paris, ça n'a aucun sens. Et trois, on abroge et on remplace par deux choses simples. Les syndicats et les patrons négocient le minimum secteur par secteur, comme en Suède, comme au Danemark, comme en Italie. Et l'État garantit un complément au bas salaire, comme la prime d'activité, mais beaucoup plus puissant. Au lieu de faire payer l'employeur, on aide directement le travailleur. C'est ce que font les Britanniques et les Américains depuis 40 ans, sous le nom de crédit d'impôt.
Le SMIC, c'est pas un acquis social pour vous?
Mais le SMIC, sans hésiter, ce n'est pas une lubie ultralibérale de vouloir le supprimer. La Suède, le Danemark, la Finlande, la Norvège, l'Autriche, l'Islande, la Suisse, l'Italie, aucun de ces pays n'a un SMIC fixé par l'État. Aucun résultat, moins de chômage, des salaires plus élevés. Une vraie protection sociale.
Merci Louis Sarkozy. Supprimons le SMIC pour lutter contre le chômage. Voilà votre proposition choc. Louis Sarkozy, la voix de droite sur RMC. Demain, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Il est 7h58, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h sur RMC et RMC Story. Il fait pas beau, Géraldine?
Non, ça va s'arranger, mais pour aujourd'hui, il va falloir se contenter des nuages et des averses. Des averses d'ailleurs qui vont tourner à l'orage cet après-midi, notamment entre les Hauts-de-France, le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, jusqu'à la Côte d'Azur et la Corse. Sur l'Aquitaine, sur l'Occitanie, là, vous allez être à l'écart. Vous aurez un temps sec et plutôt bien ensoleillé d'ailleurs. Les températures évoluent toujours pas, donc on reste sous les normales de saison. 15 à 19 degrés en général pour cet après-midi. 19 à 23 de la Vallée du Rhône jusqu'à la Méditerranée, mais là aussi des températures qui vont bien grimper pour la fin de la semaine.
8h passées de 1 minute. Très bon lundi à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est le signe que les relations s'arrangent entre la France et l'Algérie. Le ministre Gérald Darmanin va passer la journée à Alger pour parler de la coopération judiciaire entre les deux pays, mais aussi du cas du journaliste Christophe Glaize qui est emprisonné là-bas. Vous allez entendre dans ce journal les dernières réactions ce matin à l'affaire Patrick Bruel qui se défend de toute violence sexuelle, lui qui est accusé par une trentaine de femmes. Et on va dresser le bilan de la saison de Ligue 1 de foot au lendemain de la dernière journée. On va se pencher sur le cas de Nice qui va devoir passer par un barrage pour sauver sa peau dans l'élite.
Et donc, pour la troisième fois depuis le début de l'année, un ministre français se rend en Algérie.
Signe, oui, que les relations se sont améliorées ces derniers mois entre les deux pays. Alors cette fois, c'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui est sur place et qui va peut-être même rencontrer le président algérien pour évoquer la situation du journaliste français, notamment Christophe Glaize, condamné là-bas à une peine de 7 ans de prison, hein, Cyprien Pézril.
Oui, Gérald Darmanin pourrait être reçu par le président algérien. Un rendez-vous stratégique s'il en est, puisqu'Abdelmajid Tebboune a le pouvoir de gracier Christophe Glaize, comme il l'a déjà fait pour Boualem Sansal. Une grâce, c'est désormais le seul moyen pour le journaliste français d'être libéré avant la fin de sa peine. Il a renoncé en effet à ce pourvoir en cassation. L'espoir de son retour est réel pour le garde des Sceaux, mais le meilleur moyen de le libérer est de ne pas trop parler, prévient le ministère de la Justice. Au-delà du sort de Christophe Glaize, aujourd'hui, il sera aussi question de coopération judiciaire, notamment pour lutter contre la criminalité organisée, mieux ciblée par exemple des chefs de la DZ Mafia. Bref, relancer la machine entre Paris et Alger, après des mois de brouille, entretenue en particulier par Bruno Retailleau lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Fin avril, Emmanuel Macron fustigeait, je cite, les Maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie.
Alors pendant ce temps, en France, le Sénat se lancera à partir d'aujourd'hui dans l'examen du projet de loi Riposte. Texte qui balaye toutes les questions de sécurité. Il a été pensé par l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et il est désormais porté par l'actuel ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Alors si on résume, Thomas Becker, du service politique à RMC, il prévoit de durcir les sanctions contre tout ce qui est rave party, rodéo urbain, tir de mortier et consommation de drogue.
Oui, avec un doublement de l'amende de 250 à 500 euros, avec en complément une suspension du permis de conduire, même si le flagrant délit n'est pas constaté au volant. Face à la délinquance du quotidien, le ministre Laurent Nunez prône une tolérance zéro, amende forfaitaire sur le champ en cas de participation à des rave parties ou des rodéos, peine de prison pour les organisateurs. Face à l'explosion de l'usage du protoxyde d'azote en gaz hilarant, le texte prévoit 200 euros d'amende en cas de flagrant délit et 6 mois d'emprisonnement pour la vente illégale. Au Sénat, une majorité devrait se dégager, mais une sénatrice socialiste s'inquiète, je cite, de l'affaiblissement du droit, un argument qui animera les futurs débats à l'Assemblée, où le chemin vers une adoption reste beaucoup plus incertain.
Il y a un nouveau procès de narcotrafiquant qui commence aujourd'hui à Marseille. Il se passe sous très haute sécurité. Il est même qualifié de sensible par l'administration pénitentiaire. 20 prévenus jugés pour trafic de stupéfiants, notamment un certain Félix Bingui, chef présumé de ce qu'on appelle le clan Yoda, à savoir les rivaux de la DZ Mafia. Il avait été arrêté il y a 2 ans au Maroc. Nouvelle réaction ce matin. Dans l'affaire Patrick Bruel, le chanteur accusé de violences sexuelles par une trentaine de femmes, bien qu'il s'en défende, jamais je n'ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Voilà ce qu'écrit le chanteur dans un message qui a été posté dans la soirée sur le réseau social Instagram. Alors l'affaire prend une toute autre tournure depuis les accusations vendredi de l'animatrice Flavie Flamand. C'est ce qu'estime ce matin sur RMC Cécile L'Olivier. Écoutez-la, elle est journaliste au magazine Elle.
Qu'il y ait une femme aussi connue, aussi populaire que Flavie Flamand qui accuse à visage découvert, ça donne une autre dimension à l'affaire, évidemment. Et nous, les témoins que nous avons interrogés, nous ont appelés en disant qu'elles se sentaient quelque part à l'abri, confortées par cette prise de parole. En fait, elles se disent « on va nous croire ». Il n'y a pas que de la parole contre parole. Je pense notamment à notre témoin du Canada qui dénonce une agression sexuelle, qui a fait un signalement à la police de Montréal en 2017, qui en a parlé à sa hiérarchie, qui en avait même parlé à l'attaché de presse de Patrick Bruel, qui a fait un signalement à la médecine du travail. Et donc, sur les 30 témoignages, il n'y a pas que de la parole contre parole.
Tiens, cette question ce matin, l'histoire va-t-elle se répéter? Vous avez certainement vu passer durant le week-end ces scènes de tension partout en France devant des boutiques de la marque Swatch qui mettait en vente des montres d'une collection spéciale en collaboration avec la marque de luxe Audemars Piguet. Énormément de monde à cette occasion, des files d'attente ont tourné carrément aux échauffourées, la police a dû intervenir, certaines boutiques ont dû fermer dans l'urgence samedi. Elles étaient encore fermées hier, on était dimanche. Et alors à Lyon, notre correspondant RMC, Vincent Chevalier, nous dit que certains campent toujours devant la boutique Swatch qui doit rouvrir là dans la matinée.
Assis sur sa chaise de camping devant le magasin, Mohamed ne s'en cache pas.
Bon, moi je suis un reseller, donc je viens pour faire de l'argent.
Il a patienté plus de 24 heures ce week-end pour tenter d'avoir une montre, sans succès, mais il ne désespère pas.
Je suis étudiant et franchement, l'argent c'est un peu important dans notre période. 1000 euros en attendant 24 heures dehors, moi je dis pas non.
Quelques chaises plus loin, Abdel n'est pas là non plus pour l'amour de l'horlogerie. Lui aussi compte bien faire des bénéfices importants sur la revente.
Moi personnellement, la montre, celle que je voulais, elle a 400 et au minimum 400, je voulais prendre aussi. Donc à la revente, 800 euros.
Sur certains sites de e-commerce, des modèles sont même mis en vente à 1700, 2000, voire 3500 euros ou plus, ce qui ne surprend pas du tout Victor.
Audemars Piguet, c'est vraiment une marque de montre inatteignable. Il faut vraiment avoir bien réussi sa vie pour l'avoir. Vraiment, vraiment. Du coup, cette collaboration, elle fait un peu rêver tout le monde. Moi, c'est cette collaboration-là, elle me fait rêver.
Pour prévenir tout risque de débordement, la police a prévu des rondes devant la boutique ce matin. Elle doit ouvrir à 10h, sans certitude que le nouveau modèle sera bien mis en vente.
C'est comme si le temps s'était arrêté hier soir à Nantes, à Nice aussi, avec des envahissements de terrain de la part des supporters en colère dans ces deux villes lors de la dernière journée du championnat de Ligue 1 en football. Le match n'a même pas repris à Nantes, qui s'expose à des sanctions en plus de la relégation en Ligue 2. Et Nice devra passer par un barrage pour sauver sa peau dans l'élite. Ce sera contre Saint-Etienne la semaine prochaine. Et dans ce contexte-là, le président niçois Jean-Pierre Rivère ne fait plus de la finale de Coupe de France une priorité.
Est-ce que les joueurs vont relever la tête? Est-ce qu'on va arriver à remobiliser tout le monde de la meilleure des façons? Le contexte, vous l'avez vu, n'est pas facile, n'est pas bon. On doit se dire, il faut être unis. On verra comment on joue, si c'est à huis clos, c'est pas à huis clos. Moi, ce qui m'importe maintenant, c'est d'essayer de gagner ces deux matchs. Il n'y a que ça qui est important. C'est jamais accessoire de jouer une finale de Coupe de France, mais la priorité, on le sait, n'est plus là. Ça reste une finale, on va la jouer, bien évidemment. Mais le plus important, c'est de s'en sortir et de rester en Ligue 1. C'est la seule ambition qu'on peut avoir.
C'est Lille qui termine troisième, qualifié directement pour la Ligue des Champions. Lyon devra passer par un barrage quatrième. Marseille cinquième va se consoler avec la Ligue Europa. Et Rennes est en Conférence League. C'est une soirée, tiens, aussi en football, pleine d'émotions. En Espagne, à Madrid, où Antoine Griezmann a officiellement fait ses adieux à l'Atlético. Écoutez, il a été ovationné, Antoine Griezmann, après 10 saisons à l'Atlético et avant de s'envoler pour les États-Unis où il va poursuivre sa carrière. Et puis alors c'est raté pour Victor Wembanyama, on en a beaucoup parlé, il sera pas MVP, il sera pas meilleur joueur de la saison de NBA en basket. Le titre revient pour la deuxième année d'affilée au Canadien Gilgeous Alexander d'Oklahoma. Tiens, équipe que les Spurs de Wemby justement vont affronter à partir d'aujourd'hui en finale de conférence Ouest.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h08, on parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Lechypre. Bonjour Emmanuel. Après bonjour des mois tous. De négociations, SFR devrait être racheté par ses concurrents.
Oui, les trois opérateurs, Bouygues Télécom, Orange et Free, avaient déposé en octobre 2025 une proposition commune de rachat de leur concurrent SFR auprès de son propriétaire, Altice Média. La négociation devait s'achever vendredi, mais le dossier est complexe et donc la discussion est prolongée jusqu'au 5 juin. Le plus probable, c'est quand même que cette négociation aboutisse. Il n'y aurait donc plus quatre, mais trois opérateurs télécoms en France, comme avant l'arrivée de Free sur le marché de la téléphonie mobile en 2012.
La reconfiguration, elle va forcément avoir des conséquences pour nous.
Oui.
Un impact sur les prix des forfaits, des téléphones.
Exactement. Avant 2012, un forfait illimité coûtait entre 40 et 60 euros. Free arrive avec son offre à 19,99 € par mois. Résultat, les prix moyens des forfaits chutent de 30 à 50% et la France est aujourd'hui un des pays les moins chers d'Europe. Il faut donc s'attendre à l'effet inverse de celui provoqué par l'arrivée de Free, soit une hausse sans doute de 10 à 20% des forfaits. C'est ce qu'on avait constaté en Autriche, en Allemagne et en Irlande, quand le marché était passé de 4 à 3 opérateurs, comme ça va être le cas en France. Alors attention, c'est pas pour tout de suite, hein, il va encore falloir beaucoup d'autorisations de diverses autorités, ça prendra des mois, voire au moins une année. La clientèle professionnelle de SFR sera reprise par Bouygues Télécom. Pour les particuliers, en revanche, il faudra vérifier vos contrats. Quand la vente sera faite, vous recevrez un message de SFR qui vous mettra finalement le deal en main. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez changer d'opérateur? Vers qui, surtout, voulez-vous vous tourner? C'est là qu'il faudra comparer les offres et puis aller
vous
vers l'opérateur.
Vous nous donnerez les conseils, vous nous tiendrez par la main.
Je vous en reparlerai absolument. Bon. Mais rassurez-vous, déjà, personne ne sera privé d'Internet et de téléphone.
Merci Emmanuel. Les chiffres du jour, comme chaque jour sur RMC, ça monte ou ça descend?
Eh bien écoutez, je n'ai qu'une seule bonne nouvelle à vous apporter aujourd'hui. Elle concerne le gazole, dont les prix continuent de baisser. 2,12 € le litre, c'est moins 3 centimes sur une semaine. On est au plus bas depuis le 20 mars sur le gazole. En revanche, le sans-plomb 95, ça continue à monter. 2,04 €. On se demande même si finalement les courbes vont pas se croiser entre le sans-plomb et le gazole. On est là encore plus cher. Et puis le pétrole, hein, on est à 110 $ le baril. On est au-dessus des 100 depuis le 7 mai. Et puis pas très bonne nouvelle pour le gaz, hein, qui était plutôt calme.
Aussi, hein.
Ah, ça remonte aussi. 51,50 € le mégawattheure. On est au plus haut depuis le 7 avril.
Merci Emmanuel. 8h11.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et puis vous l'avez entendu ce matin, le ministre auprès du ministre de l'Intérieur qui défend ce projet de loi Riposte sur la sécurité du quotidien. Mathieu, nombreux messages sur cette
avec
question.
Avec notamment cette idée, si vous consommez des stupéfiants, un juge pourra suspendre ou vous retirer le permis de conduire pendant 3 ans. Même si ce n'est pas au volant que vous avez été contrôlé, ça vous a fait réagir. Nicolas nous dit, ça me fait bien rire, on fait des projets de loi pour durcir les sanctions. Il n'y a aucune force de l'ordre dans les rues pour sanctionner ensuite, autant ne pas promulguer cette loi si elle était votée, nous dit Nicolas. Nono nous écrit, c'est quoi ce ministre qui commence déjà à faire le parallèle entre un fumeur de cannabis et un meurtrier? Il va aussi retirer le permis à tous les cocaïnomanes qui sont parlementaires, sénateurs ou au gouvernement, nous dit Nono. Je suis pas sûr qu'il y ait de test prévu dans ce sens-là encore. On a aussi ces inquiétudes qui nous disent, Michael nous dit, les amendes c'est comme le reste, beaucoup de menaces, mais aucune peine dans la réalité, puisqu'on rappelait aussi le faible taux de recouvrement des amendes forfaitaires pour la consommation de stupéfiants. Vous continuez à réagir au 3216 et sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424.
Et dans un instant, Arnaud Demange débarque pour nous faire rire à 8h30. L'invité du face-à-face, ce sera le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel. Donald Trump menace une nouvelle fois de raser l'Iran. Des frappes inquiétante ce week-end, notamment aux abords de centrales nucléaires aux Émirats Arabes Unis. Que faut-il prendre au sérieux et quelle suite pour les événements? Réponse donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. Notez aussi qu'à 8h50, comme chaque jour pour notre plus grand bonheur, Nicolas Canteloup sera sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche. Et bonjour.
Et salut Arnaud, 8h14
bonjour
sur RMC.
Les amis.
Arnaud de Manche est avec nous.
Bonjour tout le monde, bonjour Apolline et bonjour à notre dame de la météo, Géraldine Demory. Géraldine, je tiens à vous dire, le temps de ce week-end m'a énormément déçu. Merci, bravo.
Voilà. Bravo. Je vais me rattraper le week-end prochain.
En avril, ne te découvre pas d'un fil, mais en mai, enfile un pull. Hein. Et en juin, raclette, c'est ça que vous avez prévu. Il faut vous ressaisir, Géraldine.
Oui, ça c'est sûr.
Si vous êtes crevé, c'est la fin de saison. Mais ce qu'on voit dehors là, c'est pas possible. On caille en ce moment, c'est fou. Moi j'ai passé mon week-end à faire des courses de Noël, décorer mon sapin, une petite fondue avec Mathieu. On a regardé l'Eurovision sous un plaid à paillettes avec un thé bien chaud. Et c'est la Bulgarie qui a gagné l'Eurovision. Nous, la France, on est 11e. Ça a dû faire tellement plaisir à Charles Aloncle. Vous savez, le rapporteur de la commission d'enquête sur le service public, parce que c'est le pays qui gagne, qui doit organiser la cérémonie l'année d'après. Et ça, ça coûte très cher en argent public.
Ouais.
Je suis même sûr que c'est Aloncle qui a fait passer le casting.
C'est sûr.
Non, ça non, ça on n'en voit pas. Vous rigolez, Angèle et Justice, on va gagner. Vous voulez pas qu'on envoie Céline Dion tant que vous y êtes? Non, il me faut de la daube. Je veux un truc du niveau Papa Pingouin. Suivant.
Il était où le gentil Tiyuki?
Gotenner. Gotenner, ça va pas non plus, c'est trop kitsch, ils sont foutus d'aimer à l'Eurovision. Et on sera obligé de dépenser du précieux argent public l'année d'après, alors qu'il faut protéger le précieux argent public. Il ne doit pas financer la gay pride de la chanson. Des barbus à paillettes, avec une coupe au bol. Tuez les moustachus, tuez leur concours. Il faut qu'ils soient morts, comme Marie-Myriam. Mon maître Vincent Bolloré. Non, elle n'est pas morte. Mon maître Vincent Bolloré sera fier de moi. L'an prochain, Patrick Bruel, il faudra envoyer. Perdre nous devons. Il ne faut pas gagner. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Non, ça, il ne faut pas. Il ne faut pas. Sauvons le précieux argent public.
Le Charles de Gaulle, Arnaud, est donc tout près d'Ormuz, prêt à intervenir dans le cadre d'une, je cite, mission neutre.
Oui, une mission neutre. Oui. On change de Charles. C'est ce qu'a déclaré Alice Ruffo, la ministre déléguée aux armées. Une mission neutre, nom de code de la mission, alerte beige. Opération ton sur ton, déploiement décaféiné. C'est là que tu te rends compte qu'Alice Ruffo, c'est la fille du pédopsychiatre Marcel Ruffo. Hein. Elle veut une guerre Montessori. Soldats, vous êtes des explorateurs autonomes du tapis sensoriel. Et c'est pour ça qu'on va pratiquer une activité pacifique de résolution de conflits.
Oui.
Alors, un coin calme a été installé dans le golfe Persique.
Oui.
Les États-Unis ont exprimé la couleur de leur émotion.
Oui.
Orange.
Ah.
Et avec des bombardements stratégiques. Et l'Iran a parlé de représailles, missiles balistiques, mort à l'impérialisme. On verbalise ses besoins. Mais on évite d'enflammer le Moyen-Orient avant la sieste. Voilà, c'est ça qu'il faut faire.
Alors,
mission neutre, quand même, c'est pas un super titre pour un film de guerre. Vous imaginez Rambo 12, mission neutre.
Monsieur le Président, je comprends pas ma mission.
C'est simple, John, c'est une opération neutre. C'est la guerre, et en même temps, c'est pas la guerre.
Non, c'est pas ma guerre.
Si, c'est ta guerre, mais en même temps, c'est pas ta guerre non plus. C'est ta guerre et ta non-guerre, c'est neutre, quoi.
Bon alors, je ferai pas une non-guerre comme personne n'en a jamais pas connu.
Si, tu fais la guerre. Juste, elle est neutre.
Non, mais monsieur Macron, à la guerre, on peut tuer 1000 fois une personne. Mais on peut pas tuer une fois 1000... Si, on peut tuer une fois une personne.
Bon courage.
Mais on peut pas tuer 1000 fois 1000... Si, en fait, une personne... Non, oh putain, c'est compliqué.
Brigitte, il comprend rien, il est nul.
Bah t'as qu'à demander à ta poufias iranienne de lui expliquer.
Bon alors ça c'est petit. Vraiment, c'est petit. Je t'ai dit en plus c'est platonique. Oh, alors, c'est platonique.
Les plaintes contre Patrick,
sans transition.
Bruel, accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles, seront donc désormais regroupées au parquet de Nanterre.
Oui, alors il y en a encore eu de nouvelles ce week-end, dont celle de l'animatrice Flavie Flamand. Et on est en direct de Nanterre, où la totalité des plaintes est déposée. Vas-y, Steph, recule. Vas-y, balance. Ça en fait des plaintes, hein. Ça en fait beaucoup. Mmh. Alors, dans le classement préféré des Français, bah, moi, j'ai déjà barré Gérard Depardieu, l'abbé Pierre, maintenant Patrick Bruel. Pff, on va bientôt apprendre que Mimi Mathy mord les mollets des gens, hein. C'est horrible, ce classement. C'est vrai que c'est toujours compliqué, ce genre d'affaire, parce que une femme qui accuse, on peut dire, bon, c'est un malentendu. Une deuxième. Bah, c'est un deuxième malentendu. Une troisième, bah, c'est la loi des séries, c'est un troisième malentendu. Il a 67 ans, allez, 45 ans de carrière, pourquoi pas. Mais 30 ou 40 malentendus, c'est plus dur à plaider quand même. Comment il va faire? Monsieur le juge, c'était platonique. Non, c'est mon truc à moi, ça. C'est à moi, ça. Aïe. Bon, allez, à demain.
Ils sont combien, ça?
Ils sont combien, ouais. Combien ils sont dans ta tête, Arnaud?
Beaucoup, dont un président. Allez, à demain.
Il est 8h20 sur RMC et RMC Story. On part au 32-16. Il y a Raph qui nous appelle de Mâcon. Bonjour, Raph.
Hey, salut tout le monde.
Comment ça va, vous vouliez réagir, Raph? Vous êtes conducteur de convoi et vous vouliez réagir à cette proposition de loi qui va être débattue aujourd'hui sur la sécurité du quotidien. L'idée, c'est que si vous êtes pris en train de fumer du cannabis, on pourra vous retirer votre permis, alors même que vous pourriez être pris sur la voie publique sans qu'il y ait un rapport avec le permis ou avec la voiture. Vous en pensez quoi, Raph?
Moi, je trouve ça complètement nul. Pourtant, j'aime vraiment le côté régalien et puis... quand on respecte tout, mais il y a un moment, là, les fumeurs de cannabis, si on leur retire le permis, ce qu'ils vont faire, ils vont rouler sans permis. Donc, et puis à la fin, ce qui va se passer, c'est que nos assurances, quand il y aura des accidents, c'est encore nous qui les gentils qui allons payer, quoi. Ce qu'il faut, c'est simple. En fait, il faudrait simplement, voilà, une arrestation, un mois de suspension de la voiture, on la réquisitionne, on la gare, tac. Ouais. Deuxième fois qu'on se fait prendre, 2 mois. Et puis comme ça, que ce soit un paysan en C15 ou un riche en Lamborghini, tout le monde est impacté pareil.
Tout le monde est impacté pareil, on y va progressivement. Raph, en fait, le problème que vous dénoncez et que nombreux dénoncent depuis ce matin, c'est pas tant la question de l'efficacité ou non, c'est la question de enfin, pardon, c'est pas... on peut tromper mille fois une personne. J'ai du mal, là.
C'est lundi.
Je recommence. Donc, ce qu'on reproche, c'est même pas la question de est-ce qu'il faut le faire, pas le faire, c'est en fait, de toute façon, ça ne servira à rien, ça ne sera pas appliqué. C'est la question de l'application de la loi. On a l'impression que c'est pareil, hein. On va encore augmenter les amendes, sauf qu'on nous le dit, il n'y a que 20% des amendes qui, déjà aujourd'hui, sont recouvrées. Donc, en fait, c'est la question de l'efficacité de la loi. Vous, Raph, qui êtes sur la route toute la journée, est-ce qu'il y a des choses dont vous vous dites qu'il faudrait absolument les faire?
Ouais, faut vraiment trouver un vrai problème pour le téléphone, une solution. Ouais, parce que c'est catastrophique, je vois en permanence, en plus en camion on est en hauteur, donc on voit les gens avec le téléphone sur les genoux ou sur la console centrale, on voit tout le temps les gens aussi la tête un peu baissée dans les rétroviseurs, on voit, non, c'est catastrophique. Ouais.
Donc, allez, ça c'est pas dans le projet de loi, mais en fait c'est ça, exactement ça la question. Merci Raph et merci de votre bienveillance à l'endroit de, parfois, un petit peu comme Arnaud, il y a trop de monde dans ma tête, il y a déjà un peu Gilles Kepel, il y a encore un peu Arnaud Demange, et entre les deux, ça se mélange. Merci Raph et bonne journée à vous. Il est 8h22, je le disais dans un instant, c'est le face-à-face et mon invité c'est en effet Gilles Kepel, le spécialiste du Moyen-Orient. Ça a frappé à nouveau ce week-end et notamment aux abords d'une centrale nucléaire aux Émirats Arabes Unis. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie et du nucléaire se dit très préoccupé. On y revient dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Il est 8h29 sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On a encore besoin de vos lumières parce qu'on n'y comprend plus rien. Je voudrais savoir où est-ce qu'on en est de cette guerre qui est officiellement une non-guerre. On nous parle d'un cessez-le-feu, mais on voit que ça a continué à frapper et à frapper dangereusement ce week-end, notamment aux abords d'une centrale nucléaire sur les Émirats Arabes Unis. Vous diriez quoi, Gilles Kepel, pour commenter ce qu'il se passe aujourd'hui, pour définir ce qu'il se passe aujourd'hui? aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans un état de guerre là-bas? Qui sont les protagonistes? À quel endroit est-ce que vous mettez le curseur de la définition entre guerre, paix, cessez-le-feu?
Ben, en fait, ce qu'on voit, c'est que le monde a complètement changé. On n'est plus dans ce que Hubert Védrine appelait l'hyperpuissance américaine. Vous voyez, autrefois, après la chute du mur de Berlin, il n'y a plus d'empire soviétique. Le président des États-Unis a la capacité de soutenir ses alliés, de liquider ses ennemis, de mener des opérations étrangères, etc. Et il n'y a pas véritablement de force de résistance. Aujourd'hui, et c'est ce qui a été très visible lors du sommet sino-américain à Pékin la semaine dernière, Donald Trump arrive, il n'a plus véritablement la capacité de transformer ses décisions en actions sur le terrain, et il est allé demander à Xi Jinping de lui donner un coup de main, notamment pour ouvrir le détroit d'Hormuz, et l'autre lui a dit « Attendons un peu, laissons un peu saigner Trump, et on verra quand je retournerai, quand on se reverra. »
Donc il en revient pour vous, Bredouille ?
Assez largement, oui. Et c'est un problème pour lui aussi à l'intérieur, puisque sa cote de popularité s'effondre, y compris dans les milieux conservateurs qui votaient pour lui, non seulement chez les indépendants, les démocrates. La perspective qu'il remporte les élections de midterms à la Chambre des représentants est aujourd'hui très très faible. Et aujourd'hui, la question, c'est s'il va aussi perdre le Sénat, c'est-à-dire que ces deux dernières années sera une présidence encore plus affaiblie. Et dans ce contexte-là, il n'a pas été capable, d'une certaine manière, de transformer l'essai en Iran. On était au début tous convaincus, moi compris, que la décapitation du régime, la mort de Khamenei, etc., allait amener une transformation très rapide. Mais en réalité, les gardiens de la révolution avaient préparé le terrain.
Avec ce système de pour chaque personne éliminée, une autre prenait la place, comme si tout cela avait été organisé de manière mécanique, préparée, anticipée.
Voilà. Et donc là, d'une certaine manière, le système américain se trouve en plein désarroi, si vous voulez. Ajouter à cela les rodomontades permanentes, etc. Le contraste était très frappant.
Les rodomontades, on va y revenir, avec à nouveau, hier soir, des menaces de Donald Trump, mais on ne sait plus s'il faut les prendre ou non au sérieux. Mais vous avez dit, le monde a changé. On va revenir aussi sur la question de la façon dont le monde s'organise, trouve de nouvelles routes, y compris pour le pétrole et le reste, face à cette fermeture du détroit d'Hormuz. Mais je percevais derrière votre expression, le monde a changé, une sorte de redistribution des cartes des puissances.
Oui, justement. Alors, c'est quelque chose sur lequel vous n'êtes pas la seule à vous poser des débats. C'est un vrai questionnement. On aura demain soir avec Bruno Tertrais, d'ailleurs, un débat là-dessus sur la guerre. Qu'est-ce que c'est exactement?
Ça devient même un sujet. Oui, en effet. Demain soir, vous serez au Théâtre Marigny avec Bruno Tertrais, qui est un autre de mes invités réguliers, pour essayer de comprendre précisément ce qui se joue, pour débattre de ce qu'est la guerre aujourd'hui. C'est quoi la guerre aujourd'hui? C'est aussi la question que je vous pose.
Voilà. Ça n'est plus ce que c'était autrefois. Ça, c'est la seule certitude qu'on peut avoir. Avec, par exemple, la prolifération des drones. C'est-à-dire que les États-Unis ont lancé cette guerre avec des moyens massifs, mais en réalité, et ça s'est vu notamment dans le Golfe, et ça c'est l'un des enjeux les plus graves aujourd'hui, les pays du Golfe, les pétromonarchies comme on dit, ont payé des fortunes pour que les Américains mettent des intercepteurs, des missiles de croisière, des missiles interbalistiques, etc. Et le résultat, c'est que ceux-ci ont été impuissants face aux flottes de drones envoyées par les Iraniens.
On a l'impression qu'on a basculé déjà au moment de la guerre en Ukraine, c'était très frappant, d'un monde où on nous parlait de la bombe atomique, et ceux qui détenaient la bombe atomique, en gros, étaient à l'abri de tout, à une période où on s'est rendu compte que la guerre, c'était encore des tranchées, c'était encore des êtres humains que l'on envoie au front et qui meurent au front. Et puis, on est passé là, avec la guerre en Iran, à la question des drones. Au fond, on a l'impression que nous, on s'était préparé à une guerre justement sur le plan atomique, j'allais dire, atomique ou missile. Et on se retrouve, au fond, avec face à nous des drones qui sont incroyablement efficaces, plus efficaces peut-être que tous les sous qu'on avait mis dans le développement d'armes balistiques beaucoup plus fortes.
Et qui valent le prix d'un vélo. Mais ceci n'est pas incompatible avec cela, puisque justement, c'est l'Ukraine qui va être capable de construire des machines anti-drones, puisque les Russes utilisent des drones iraniens justement pour taper sur les Ukrainiens et notamment sur les civils, mais et qui ensuite vont vendre, les Ukrainiens vont venir vendre ça aux Saoudiens et autres qui se trouvent confrontés à ce que, quand, et ça c'est quelque chose qu'on n'est pas, encore sûr, mais le cessez-le-feu du 8 avril, qui intervient alors qu'il n'y a pas eu véritablement d'avancée sur le terrain pour les Américains et leurs alliés, c'est aussi parce que les armements hors de prix sont épuisés. Et il y a plus d'intercepteurs. Et donc on 10 pouces. Vous avez mis tout à l'heure, on cessait la guerre. C'est un cessez-le-feu dans lequel on se tape dessus, parce que les moyens conventionnels ne sont pas là. Mais drone et atomique, ça n'est pas forcément incompatible, justement.
C'est comme s'il y avait deux niveaux désormais de guerre.
Oui, mais que vient-il de se passer à Abu Dhabi? La centrale nucléaire civile qui a été construite par les Coréens, qui est entrée
à Baraka, le centre nucléaire de Baraka, ce sont les Émirats Arabes Unis, effectivement, qui dénoncent, donc, je cite, une frappe de drone qui a provoqué un incendie aux abords de la centrale nucléaire de Baraka dans l'ouest du pays. Et d'ailleurs, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, exprime sa profonde préoccupation. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Alors, disons que là, il s'agit effectivement d'un drone qui a mis le feu à un bâtiment annexe, un générateur électrique, je crois. Bon, ça en soi, ça ne représente pas le danger de l'apocalypse nucléaire, de l'explosion centrale. Mais c'est un signe que l'on sait. Bien sûr, personne ne revendique l'avoir envoyé. Je ne sais pas s'il est venu de l'Iran ou d'un mandataire quelconque de la région, peut-être d'un L'Irak groupe chiite pro-iranien du sud de l'Irak. C'est pas compliqué. Mais c'est un signe très fort. C'est-à-dire que quand on dit à l'Iran il faut que vous rendiez votre stock nucléaire, Trump a dit qu'il allait le prendre et l'emmener aux États-Unis. Il est un peu en dehors de la réalité, je crois, en disant ça. Là, l'Iran réplique, tiens, à propos du nucléaire, il y a un enjeu de l'autre côté. Et il faut bien voir que ce sont les Émirats qui ont été visés, puisque ce qui se passe aujourd'hui et qui est très important, c'est que le front du Golfe, qui était relativement uni, de ce qu'on appelle les pays du Conseil de coopération du Golfe, pays arabes, aujourd'hui, face à l'impuissance américaine, sont en train de chercher d'autres solutions, des solutions qui s'ajoutent à celles-ci. Les Émirats notamment, qui sont les seuls avec le Bahreïn à avoir signé les accords d'Abraham, c'est-à-dire des accords avec Israël, se sont de plus en plus tournés vers les Israéliens pour apporter leur protection. Et ont fuité dans la presse des informations la semaine dernière que M. Netanyahou s'était rendu aux Émirats en secret au mois de mars, ce qui a fait un grand scandale. Pourquoi lui a-t-il fuité ça? Parce que il est en campagne électorale, il a appelé les élections anticipées en Israël en août, et donc il a besoin de montrer à son électorat qu'il n'est pas tout seul et qu'il a un certain nombre de pays arabes avec lui. Évidemment, aux Émirats, on n'a pas particulièrement apprécié parce que...
Ils n'ont pas tellement intérêt à ce que ça se
sache. Évidemment, les Iraniens en ont immédiatement profité pour dire, vous voyez, c'est une alliance inacceptable, etc. Et donc, on a le dôme de fer, c'est-à-dire le système de protection israélien qui a été implanté aux Émirats, parce que les Émirats n'ont plus confiance dans le seul parapluie américain.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de redistribution des cartes? Vous évoquiez les accords d'Abraham, ces accords d'Abraham qui étaient en train de se mettre en place avant le 7 octobre, qui a évidemment balayé tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de se reconstituer?
Alors, pas partout, puisque quand les Émirats et le Bahreïn sont plutôt de ce côté-là, à l'encontre de cela, l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui pourtant ne s'entendaient pas autrefois, se sont eux plutôt installés dans une politique d'accommodement avec l'Iran. Et précisément, se sont rapprochés de la Chine, qui a montré lors du sommet de Pékin qu'ils avaient la capacité, eux, d'agir sur l'Iran.
Puisque vous évoquez l'Arabie Saoudite dit cette nuit avoir intercepté 3 drones en provenance d'Irak et dit même qu'elle pourrait réagir. Le ministre de la Défense se réserve le droit de riposter au moment et au lieu approprié. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là?
Oui, de toute façon, ils ne peuvent pas dire autre chose. Il faut qu'ils manifestent à leur population qu'ils sont en capacité de se défendre.
Mais pourquoi l'Irak?
Non, parce que en Irak, vous avez des milices chiites qui ont échappé assez largement au contrôle du gouvernement, qui sont en réalité manipulés par les Iraniens. Donc, quand les Iraniens veulent attaquer une cible sans qu'on leur impute la responsabilité...
Ils le font de manière indirecte,
au fond. On dit aux Hezbollah irakiens ou à les milices dites de la mobilisation populaire, le Hashd al-Sha'abi, de tirer, et comme ça, on peut être dans ce qu'on appelle le déni. On dit c'est pas
mais,
nous.
Mais quel est l'intérêt, puisque vous, si je suis bien à ce que vous êtes en train de nous expliquer, on a justement l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui au fond sont en train de se dire, bon, l'Iran, de toute façon, on n'en viendra pas à bout, il va falloir vivre avec. Si l'on renvoie ce type de drone, alors certes, en disant c'est l'Irak qui l'a fait, pas exactement nous, est-ce que ça n'est pas une manière, au contraire, de se les remettre à dos de la part de l'Iran?
Oui, ou bien de maintenir la pression et de faire en sorte que, de toute façon, il n'y aura pas d'autre solution que de trouver l'accommodement. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui n'a pas bougé. Et les Chinois, là-dessus, ont dit on ne va pas aider. C'est le détroit d'Ormuz.
C'est-à-dire au moment où on se parle, il est totalement fermé.
Voilà. Alors, il est plus ou moins totalement fermé, puisque à la suite de la rencontre Trump-Xi Jinping à Pékin, donc les Iraniens ont dit bon, on laisse passer les bateaux amis. C'est-à-dire que le principal problème qui était qu'il n'y avait plus de gaz naturel liquéfié ni de pétrole qui arrivait en Asie. Tout ça est en train d'être résolu puisque les Iraniens les laissent passer à leurs conditions et on voit mal le contre-blocus américain derrière empêcher le passage de bateaux qui vont soulager la situation en Asie, puisque sinon c'est Trump qui emporterait la responsabilité. Donc vous voyez qu'il y a un jeu qui est extrêmement subtil là et qui s'inscrit surtout dans la montée en puissance chinoise.
La montée en puissance chinoise met toujours cette menace. Encore une fois, vous le disiez, il y a une forme de gesticulation de la part de Donald Trump. On ne sait plus s'il faut croire ou non ces menaces. Donald Trump qui, hier soir, a adressé une nouvelle mise en garde à Téhéran. Pour l'Iran, le temps presse, il ferait mieux de se bouger vite, vite écrit en lettres capitales. Sinon, il ne restera plus rien d'eux. Le temps est compté, là encore en lettres capitales, avec plusieurs points d'exclamation derrière. Et on apprend que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est aussi entretenu donc avec Donald Trump. Est-ce qu'il faut imaginer une reprise éventuelle des frappes à proprement parler pour sortir de ce qu'on était en train de définir ensemble comme une sorte de faux cessez-le-feu?
Ben, c'est très difficile comme pari pour les Américains puisqu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour frapper et le résultat n'a pas été probant. Alors, si de frappe il doit y avoir, elles doivent trouver ce qui va permettre de d'amener l'Iran à la négociation.
Qu'est-ce qui reste comme
pour l'instant, il n'y a pas grand-chose puisque la disproportion entre les armements est flagrante et le fait que on n'ait pas trouvé du côté occidental, du côté américain en tout cas ou israélien, une réplique efficace aux flottes de drones pose un véritable problème. Vous avez par exemple, il y a aussi un autre drame qui se déroule, on en parle malheureusement trop peu, qui est la catastrophe qui est à la frontière israélo-libanaise. C'est-à-dire que vous avez donc une zone de sécurité qui a été construite par Israël dans le sud, des bombardements quotidiens qui touchent des cadres du Hezbollah, mais aussi une population qui est obligée d'être déplacée, de fuir, et en même temps, le Hezbollah qui a trouvé désormais des drones sans filaire à fibre optique qui valent 350 euros.
Oui, vous disiez, c'est
moins
le
cher
vélo,
qu'un
quoi.
Vélo. Oui, c'est ça, un vélo en solde. Et qui sont indiscernables et qui tuent des soldats israéliens qui sont là, des hélicoptères, etc. Et qui menacent aussi le nord d'Israël.
Et là encore, il y a un décalage effectivement entre les mots et les faits, puisque officiellement une trêve entre Israël et le Liban a été reconduite pour 45 jours, sauf que, vous le disiez, des frappes israéliennes encore dimanche ont tué 7 personnes, dont un des chefs du djihad islamique palestinien visiblement présent sur le sol libanais. Le Hezbollah dit avoir tiré 200 projectiles, hein, c'est ce que vous citiez à l'instant, sur Israël ces tout derniers jours, sur Israël et sur les troupes israéliennes. Au fond, ça ne s'arrête pas.
Non, et ça ne s'arrête pas précisément parce que, si vous voulez, le logiciel des États-Unis est encore un logiciel qui date.
Mais
le système Trump ne s'est pas adapté aux défis d'aujourd'hui. Et c'est ça toute la difficulté.
Évidemment, la question du logiciel Trump, on va revenir aussi sur ce qu'il propose éventuellement comme une négociation, mais enfin, visiblement impossible d'un côté ou de l'autre d'accepter ce que propose l'adversaire. Mais une question quand même sur ces fameux 200 projectiles tirés ces dernières heures sur Israël. On a du mal à comprendre que dans la situation actuelle, le Hezbollah ait pu reconstituer ou constituer. Ça veut dire qu'il avait des stocks considérables, malgré des années où Israël quand même régulièrement tape, oui. Malgré l'affaire des beepers. Comment ça passe, pardon, c'est presque... Comment ça arrive?
Alors ça, c'est la grande question. C'est-à-dire qu'on n'a pas de la certitude.
J'imagine que... Alors vous dites que c'est le prix d'un vélo, mais enfin j'imagine qu'il faut quand même le transporter, ce drone. Il n'est pas fabriqué sur place dans le sud du Liban.
Alors, cela, semble-t-il, c'est faisable. Enfin, sinon, dans le sud du moins d'à Beyrouth. Vous avez quand même tout le sud de Beyrouth et une grande partie du sud du pays qui est chiite, et parmi lesquels dont tout le monde n'est pas pro-Hezbollah, mais le Hezbollah dispose quand même de ressources, notamment parce que c'est un conduit qui amène les financements iraniens à des populations qui sont souvent assez déshéritées et qui ont ça comme moyen de subsistance. Mais ce qui s'est passé effectivement, c'est qu'on n'imaginait absolument pas qu'après, vous avez évoqué l'affaire des beepers en septembre 2024, où il faut rappeler donc que les Israéliens avaient piégé des beepers ou des pagers du Hezbollah, et quand ils les ont déclenchés, presque tout l'establishment, enfin au niveau des officiers et des sous-officiers du Hezbollah, ont été éliminés ou incapacités. Ensuite, le cheikh Nasrallah a été tué, etc. Mais comment les gardiens de la révolution ont-ils réussi à reconstituer, sans qu'on le sache, le Hezbollah et à en faire de nouveau une menace terrible pour Israël? Ça, c'est une vraie question que, justement, les services de renseignements occidentaux et israéliens eux-mêmes, directement concernés, n'ont pas été capables d'anticiper.
Ils n'ont pas changé le logiciel. Ils n'ont pas vu ce monde aussi évoluer. Et ils continuent à faire des idées de négociations qui sont quasiment impossibles. Et c'est pour ça qu'on a du mal à imaginer comment ça va se terminer, cette histoire. C'est Washington qui exige notamment que l'Iran ne maintienne qu'un seul site nucléaire en activité et transfère son stock d'uranium, les fameux 450 kilos d'uranium enrichi, sur le sol américain. On imagine bien que ça, c'est impossible.
Non, ça, c'est quelque chose qui est l'aboutissement d'une capitulation. Mais ça ne peut pas être le début d'une négociation. Mais là, on est obligé de se dire que l'équipe américaine est bonne pour les deals immobiliers. Mais c'est pas tout à fait de ça dont il s'agit. Et ça pose un véritable problème. Comment est-ce que les démocraties occidentales en arrivent à confier leur destin à des gens qui ne sont pas efficients pour le faire, qui ne savent pas ce que c'est? Face à cela, vous avez des négociateurs iraniens pays qui a inventé le jeu d'échecs et qui sont parfaitement formés, si vous voulez, et peuvent transformer leur faiblesse en force. Et c'est ça qui est très frappant, c'est cette espèce de Gulliver empêtré, si vous voulez, des
Américains.
Voilà.
Américain face,
ça, c'est,
effectivement,
c'est une question fondamentale, et c'est bien pourquoi, si je puis me permettre, faire un peu de publicité, on va essayer d'en débattre,
C'est votre seconde promo, mais allons-y, assumez-le. Voilà. Effectivement, vous débattez sur la guerre demain soir avec Bruno Tertrais, ce sera au théâtre Marigny. Gilles Kepel, merci d'avoir été avec moi ce matin, professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient, et donc demain soir sur la scène du théâtre Marigny. Désormais, la guerre, effectivement, on en débat, y compris dans les théâtres. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Gilles Kepel était mon invité dans le face-à-face ce matin. Il est resté avec nous. Rebonjour Gilles Kepel.
Rebonjour.
Gilles Kepel, hier, Donald Trump a de nouveau menacé de détruire l'Iran, donc.
Oui, écoutez, pour être tout à fait précis, le président américain Donald Trump a écrit sur son réseau Truth Social, je rappelle au passage qu'en anglais le verbe écrire est un verbe irrégulier, to write, wrote, written, je me reprends moi-même, oui, c'est voilà. Vous dire si je suis de très haut niveau, il a donc écrit qu'il ne reste ne restera plus rien de l'Iran, cité errant, n'accepte pas un accord. Plus rien, c'est-à-dire nothing, ou si vous préférez, en arabe littéraire, nada zobi wahalo. Même si, pour ma part, je préfère pratiquer au quotidien l'arabe bédaoui que l'on parle en Égypte, notamment dans le Sinaï et sur les côtes de la mer Rouge. Rouge, au sud de la Cisjordanie, en Syrie également, en Palestine, mais aussi dans les quartiers nord de Monaco.
Eh bien, thank you, Gilles Kepel.
You are welcome, Apolline. Mais il va falloir quand même que vous travaillez, c'est mon conseil du jour, un petit peu votre accent. Repeat after me. Brian is in the kitchen.
Brian is in the kitchen.
Très bien, on va aller plus loin. The drone shed is in the kitchen.
Ça risque malheureusement d'être une phrase utile à l'avenir. Merci beaucoup Gilles Kepel. Tout de suite, on retrouve Pascal Praud pour les titres de l'actualité. Bonjour Pascal.
Eh oui, bonjour, bonjour à tout cet entourage journalistique de qualité. Gilles Kepel est là ce soir, demain, au Théâtre Marigny. Oui, la promo s'il ne vient pas. Apolline, ça y est, vous êtes donc Apolline, rentrée de la Sarthe, capitale Le Mans. Et en même temps, c'est vrai qu'il n'y a plus de raison de continuer à s'isoler puisque l'épidémie d'antivirus est terminée. Ça a duré quoi, 24 heures? C'est comme les 24 heures du Mans. Voilà. Du Mans. C'était donc le Mantavirus. Voilà. Oui. Oui, mais écoutez, on démarre la semaine par du LOL. Voilà. Mais Le Mans est un très bon choix pour passer tranquillement le pont de l'Ascension, cette belle fête catholique. Ben oui, mais pardon, les rillettes de porc, ça éloigne les musulmans. Voilà, oui. Allez, oui, c'est moins drôle que Gilles Kepel.
Allez.
Sa sainteté, le pape Léon XIV, nous fera l'honneur de venir en France en septembre prochain. Et pour mai 2027, nous espérons également l'arrivée du Messie, Jordan Bardella.
Ah oui,
ce week-end avait lieu l'Eurovision, ce concours qui sacre chaque printemps un chanteur ou une chanteuse. Il y a des années d'ailleurs où on a du mal à savoir d'ailleurs si c'est un homme ou une femme. Bref, un concours de wokistes dégénérés, transgenres, insoumis, métrosexuels, pardon, mais c'est pas le sacre du printemps, c'est le massacre des tympans.
Oh voilà.
Mais d'ailleurs, je crois qu'un spécialiste, Nikos Aliagas, souhaitait réagir, monsieur Aliagas.
Ouais, salut les loups. Et oui, l'Eurovision, ce monument de la chanson européenne qui a révélé tant de talents comme tous ceux et celles qui ont remporté ce grand concours de chant, qui sont restés au firmament mondial de la chanson pendant 2-3 jours max.
Oui, okay.
Voilà. Donc je le dis, c'est mon conseil. Ceux qui rêvent de devenir chanteur, inscrivez-vous plutôt à la Star Academy. Ça, c'est une valeur sûre. Là, au moins, si vous gagnez, vous ferez une vraie carrière d'au moins 3, voire peut-être 4 mois. Comme Magali. Et oui, Magali, la grande Magali. Souvenez-vous de Magali. Mmh. Ceux qui se souviennent de Magali t'embrassent, oui. Vous embrassent. Bon, apparemment, personne ne se souvient, mais on t'aime quand même, Magali. Salut Magali,
Magali. Merci Nikos. Stéphane Bern, bonjour. Vous étiez à nouveau aux commentaires justement de l'Eurovision cette année. Plus politique que jamais.
Hein. Mais politique. Mais moi, je ne suis pas fait pour ça, pour parler politique. Moi, chaque année, si je dis oui pour aller commenter l'Eurovision, c'est juste pour me moquer de la prestation d'un boys band lituanien déguisé en ragondin ou de danseurs moldaves en slip fluo qui font des saltos arrière pour éviter des lasers multicolores. Non. Mais au lieu de ça, cette année, je me suis retrouvé à devoir parler boycott d'Israël, d'Ukraine, de Russie, de Pays-Baltes, de Palestine, de géopolitique internationale. Mais si c'est comme ça, hein, vous pouvez m'oublier pour l'année prochaine. Vous envoyez Gilles Kepel, il est fait pour ça.
Oui, écoutez, je veux bien effectivement commenter l'Eurovision.
Oui,
Bulgarie, 12 points. Bulgaria, 12 points. La Bulgarie qui, conformément à ses accords passés avec les Émirats arabes unis et avec l'appui de la Russie septentrionale a pour contourner l'Ukraine ouvert un oléoduc au sud Liban. Belgique, Belgium 4 points. La Belgique qui, je le rappelle, ne fait plus partie de l'OPEP depuis la scission entre le Liechtenstein et le Luxembourg entérinée lors des accords d'Islamabad.
Oui, merci beaucoup Gilles Kepel, très bonne idée hein, donc pour la présentation de l'Eurovision. Patrick Bruel est accusé par une trentaine de femmes dont Flavie Flamand de viol ou d'agression sexuelle. Nadine Morano voulait-elle aussi témoigner?
Non mais je suis désolée, mais moi je peux pas y croire. C'est pas possible, c'est des rumeurs, c'est de la couille en sachet.
Non, enfin Nadine Morano, bon, enfin elles ont l'air sincères quand même ces femmes.
Mais c'est incompréhensible. Mais t'as vu la tronche de beau gosse de mon Patrick? Autant Gérard Miller, je dis oui. Bon. Hein. Le gars, mais oui, il a une dégaine de prof d'économie en banlieue de La Roche-sur-Yon. C'est vrai. Mais non, mais il te fait pas durcir les tétés, pardon. Hein. Mais je comprends que le gars, il misait tout sur l'hypnose, il avait que ça. Mais pas mon patoche, mon mon Patrick à moi. C'est pas possible. Il claque des doigts, il y en a 15 qui tombent d'un arbre et 30 qui sortent d'un buisson pour lui faire un massage à l'inclusive avec finition norvégienne et chatouillé du Kentucky. Oui, du Kentucky. Il n'y a pas que Gilles Kepel qui parle géopolitique.
Ah, c'est vrai, ça, vous avez l'air très remonté quand même, dites-moi.
Ben ouais, mais moi, je suis fan de Patrick depuis toujours. C'est un peu mon Sarko musical, ah, tu vois. Je kiffe autant que si mon Sarko avait sorti un double album. Mm. Je vais te raconter une histoire.
Ah, oui.
Une fois, Patrick, il m'a invité en sa loge, en backstage. J'avais prévu le coup, tu vois, je m'étais apprêté. J'avais mis mon pantalon en sky noir, mon rouge à lèvres écarlate cramoisi, deux coups de pchit fébraise lavande bergamote sous chaque aisselle. J'avais déboutonné ma chemise jusqu'au nombril en mode décolleté XXL. Bref, comme d'hab, tout dans la classe, tu vois. Et quand je lui ai mis mes nibards sous le nez, en lui disant « Mon loulou, je te kiffe, viens dans ma permanence en Meurthe et Moselle, je te fais la totale », eh ben tu sais quoi, il les a même pas touchés, mes nibards. Il s'est même caché les yeux. C'est incompréhensible. Du coup, je me suis rabattu sur Marshall.
Ah oui.
Je pensais qu'il allait me dire « Non, je suis en couple avec Truchot ». Mais pas du tout. C'est pas sa carte joker qu'il a sorti. Oh le salaud.
Oh non. Oh, mais justement, il est avec nous.
Merci
Gilles Kepel d'avoir joué le jeu. Merci Nicolas. Bon, Alain, je n'ai plus qu'à vous demander quel est le programme.
Eh bien, justement, on continuera l'affaire Bruel, savoir s'il peut continuer de se produire ou pas sur scène. On évoquera les professionnels du cinéma qui dénoncent l'emprise grandissante, c'est ce qu'ils disent, de l'extrême droite et de Vincent Bolloré sur la production des films. On reviendra aussi sur les recruteurs qui sont très sévères avec les CV bourrés de fautes d'orthographe. Et puis, nous recevrons la magistrate Béatrice Brugère. Les juges ont-ils vraiment tous les droits? C'est la question qu'elle pose. Et nous, on essaiera d'avoir des réponses. Allez, à tout de suite.